suite.
Merci, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion d'intervenir sur ce thème des frontières qui je trouvais vraiment fascinant, qui est un point d'entrée magnifique pour tout un tas de questions normatives qu'on les aborde du point de vue de la philopolitique ou d'autres sciences sociales. J'ai un titre qui est un titre un peu ronflant, donc je vais commencer par m'en excuser. C'est-à-dire les dynamiques frontalières, c'est ce qui m'amuse, comprendre comment les frontières émergent, comment elles bougent, dans quelle mesure on a pris sur elles ou pas. Puis c'est le sous-titre, en fait, maintenant qui me gêne un peu, bien sûr, leçon pour une philosophie politique des migrations. Comme toujours, c'était plus pour moi me donner un but, et donc les leçons, je prétends me les infliger surtout à moi-même et pas à la philosophie politique. En gros, ce qui m'intéresse et ce qui explique ce titre, c'est la chose suivante. Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux frontières parce que je me suis intéressée à la justice dans les situations de migration. Et donc, dans ce cas-là, je crois qu'on a tous en tête, quand on prononce ces mots, justice et migration, on a tous en tête un peu une série de situations type la traversée d'une frontière avec un poste de douane, le moment où on demande un visa dans une administration, ce qu'on lit aussi ou ce qu'on entend des comptes rendus tragiques souvent de naufrages de migrants illégaux, des choses comme ça. Donc on a en tête une série de situations qui sont des situations éminemment normatives, qui suscitent souvent en nous du malaise. Donc on sent qu'on a un problème théorique, je pense, et normatif là-dessus. Et l'impression qu'on a quand on travaille cette question de la justice migratoire, c'est que le problème de justice se joue là, se joue à l'endroit de la frontière. Le problème, c'est de savoir si la frontière est ouverte ou fermée, ou comment elle est ouverte ou fermée, et à qui. Et je crois que quand on s'intéresse aux frontières elles-mêmes, c'est-à-dire en gros quand on prend appui sur l'énorme travail qui a été fait dans le champ des border studies depuis 30 ans et plus, quand on prend le problème en s'intéressant aux frontières, on se rend compte que la première approche est sans doute un peu trompeuse. C'est-à-dire qu'en fait, les frontières, c'est bien sûr des révélateurs de situations qu'on peut qualifier d'injustes, mais c'est très difficile de pointer du doigt l'endroit où se produirait l'injustice qui serait le passage de la frontière. Et donc la thèse que j'aimerais défendre aujourd'hui, c'est l'idée qu'en fait, le problème de justice est sans doute en fait mal formulé, ou un peu déformé, un peu biaisé, quand on le formule comme un problème de migration, sous-entendu un problème normatif qui jouerait avant tout au moment où la frontière est ouverte ou fermée. Et je pense qu'effectivement, c'est des cas où il y a des injustices et des questions normatives qui se posent, mais je pense qu'en réalité, c'est un mauvais découpage des problèmes, hein, c'est vraiment une question de cadre qui m'intéresse aussi, un mauvais découpage des problèmes que de les identifier comme problèmes de justice migratoire qu'on résoudrait avant tout en s'interrogeant philosophiquement sur la question de l'ouverture ou de la fermeture du filtre qui est la frontière. Alors, ce qui me pousse à faire cet effort-là, ou ce qui, à mon avis, nous suggère qu'on a effectivement un mauvais découpage, c'est que, de fait, la philosophie politique, quand elle prend le problème de cette manière-là, très souvent, finit en queue de poisson. C'est-à-dire, elle va souvent éluder très rapidement les questions normatives de fond pour retomber sur des raisonnements de type pragmatique. Je repense toujours à la citation très très fameuse de Rocard, qu'on cite toujours dans ce cas-là. Rocard avait dit à propos des migrants, la France ne veut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. Et ça me semblait tout à fait symbolique du mouvement qui était fait, où très rapidement on élidait le problème de philosophie de la justice en le rabattant sur une question de charité. Et donc sur une question en fait qui était celle de savoir si notre charité était plus ou moins généreuse, mais qui était en fait de l'ordre du superfétatoire, hein, pour prendre les termes d'éthique, et qui n'était pas de l'ordre de la philosophie de la justice en bonne et due forme, où on reconnaît des droits aux gens. Et c'était ça qui me gênait, cette manière dont, quand on reformule le problème de la justice migratoire comme un problème de frontières ouvertes ou fermées, on retombe très vite, avec un certain malaise, sur des questions pragmatiques. Hein. Le monde est ce qu'il est, il faut bien faire ce qu'on peut, on peut en accueillir certains, mais pas tous. Et qui ne sont pas des problèmes qui sont normativement réglés. Dans ce cas-là, la question normative de départ, qui était l'arbitraire des frontières, eh ben, elle s'est comme évanouie et on l'a perdue en route. Et c'était cette élision-là qui me gênait. Si on considère que ce que fait souvent la théorie de la justice, au fond, c'est justement de dire, bon, bah, dans toutes les inégalités qu'on constate, il y en a certaines qui sont de l'ordre de la fatalité et d'autres qui sont de l'ordre de l'inacceptable qui doit être corrigé socialement. On peut... Voilà, si on prend une vue de très loin, on peut dire une théorie de la justice, ça fait souvent ça, ça discute de la limite entre l'arbitraire et le socialement inacceptable devant être corrigé. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure on peut faire ce travail de déplacement de la limite du normativement acceptable quand on s'intéresse à la question des mobilités internationales. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est quand on regarde les problèmes de justice migratoire comme les problèmes de charité, hein, l'attitude pragmatique et souvent généreuse, enfin, qui consiste à dire, voilà, on va chercher à en accueillir, il y a deux problèmes qui se posent, à mon avis. Le premier, c'est que, sans s'en rendre compte nécessairement, on adopte une vision très particulière des migrants comme étant justement la misère du monde, ce qui est évidemment une équation très problématique, hein, qui suppose que les migrants sont nécessairement dans une situation de tel type par rapport au pays d'entrée. Et puis d'autre part, et donc là on va retrouver le concept dont on parlait un instant, c'est à mon avis un cas de nationalisme méthodologique typiquement. Hein, on va considérer que la bonne échelle pour concevoir ce type de phénomène sociaux lié à la mobilité, c'est l'État moderne, hein, le monde moderne avec ses nations et ses frontières, que finalement dans ce cas-là, on ne va pas questionner. Alors ici, le fait de considérer que les déterminants et les explications des migrations, ça se comprend en termes nationaux, donc en termes de nationalisme méthodologique, dans le cas des migrations internationales, c'est à la fois trivialement vrai et c'est aussi en un sens faux. Alors c'est trivialement vrai, pourquoi ? Parce que effectivement, c'est comme ça que pensent nos administrations. On demande des visas, on dit qu'on est français ou qu'on est belge ou qu'on est espagnol, et c'est comme ça qu'on, très largement, on pense et on structure le monde. Mais maintenant, c'est profondément faux, parce que les échelles de compréhension des mouvements, si vraiment on veut comprendre ce qui donne sens au flux de migration internationale, on se rend compte que très rapidement, on est obligé de faire varier la lentille de l'enquête au supranational, hein, des mouvements régionaux, des équilibres régionaux, au contraire à l'infranational, sur des mouvements locaux. Alors je voudrais prendre juste un exemple de cette idée que pour faire sens, pour donner sens au mouvement transnationaux, il faut souvent toute la palette des échelles et pas seulement l'échelle nationale. Donc mon exemple, ça va être un livre de journalisme d'enquête de quelqu'un qui s'appelle Oscar Martinez. Et je ne sais pas si vous intéressez à la question des migrations dans cette partie du monde, c'est un livre vraiment fascinant. Le livre s'appelle The Beast, qui est le nom en fait du train qui emmène les migrants d'Amérique centrale vers le Mexique, puis pourra rejoindre les États-Unis. Et donc il a une méthode d'enquête journalistique vraiment de terrain où il décrit la route que font les migrants d'Amérique centrale, et donc il parle de gens du Guatemala, du Honduras et du Salvador en particulier, pour remonter tout le Mexique par le train, l'enjeu principal étant d'éviter de trop tomber dans les filets des gangs de narcotrafiquants, c'est tout l'enjeu, pour arriver ensuite à traverser illégalement le Mexique. Et ce qui est très intéressant, je vais reprendre cet exemple plusieurs fois dans l'exposé, parce que je le trouve révélateur. Si vraiment on s'intéresse là au prisme nationalisme méthodologique, ce texte-là, il est intéressant parce que d'abord, il montre effectivement qu'il y a une importance factuelle du prisme national. D'abord parce que sur la route, les migrants se regroupent souvent par nationalité. Hein, ceux du Guatemala ici, ceux du Honduras ensemble, etc. Et puis ensuite parce qu'on sent de manière extrêmement profonde l'enjeu qu'il y a à passer les différentes frontières nationales. Ça change radicalement les possibilités de vie. Mais en même temps, ce prisme national, il suffit pas, parce qu'en réalité, si on veut comprendre dans la profondeur tout l'enjeu de ce passage, de ce chemin, de ce parcours, alors on a besoin pas seulement de comprendre les systèmes nationaux, mais on a besoin aussi de comprendre les différents systèmes de pouvoir à l'échelle locale en particulier, donc les jeux de pouvoir entre les différents gangs, entre les différentes ONG qui aident les migrants, entre les prêtres sur le bord du chemin. Bref, on a tout un système complexe avec différents acteurs qui sont entremêlés, et on a besoin de voir tout ça pour réussir à donner un sens à ces différents passages de frontières que, un peu rapidement, on qualifierait justement comme ces simples migrations transnationales avec une grosse frontière qui serait celle des États-Unis du Mexique. En réalité, on a un système qui est beaucoup plus feuilleté que ça. Alors, voilà pour la très grande introduction. Je vais résumer un petit peu le trajet que je propose de faire. Je vais partir dans une question qui, à mes yeux, au départ, avait l'air d'être une question innocente quand j'ai commencé le projet, ou en tout cas d'être une vraie bonne question de philosophie politique appliquée, qui était qu'est-ce que la justice quand on l'applique au cas particulier des migrants, et qu'est-ce que la justice au moment où on doit accorder et refuser un passeport. Et ma thèse, en fait, c'est de dire que la frontière, malgré les apparences, malgré ce que je pensais au début de mon travail, la frontière n'est pas du tout le bon lieu pour formuler la question. La question de la justice, dans ce cas-là, elle existe, mais ce n'est pas du tout une question de justice migratoire au sens où je l'entendais au début, parce qu'à mon avis, il n'y a rien de spécifique qui s'appelle comme ça. Il n'y a pas vraiment d'enjeu de justice qui s'appellerait, qu'on pourrait isoler comme enjeu de justice migratoire, parce qu'il n'y a pas d'unité de la situation des migrants, d'une part, et d'autre part, parce que justement, la frontière nationale comme telle, en réalité, n'est qu'un prisme, n'est qu'un révélateur d'enjeux de justice qui se développe à différents niveaux. Alors je vais procéder en trois étapes. Dans une première étape, je vais simplement essayer d'analyser le mot frontière. Ça va être vraiment une enquête très terre à terre pour me dire, bon, il y a une diversité d'usages, comment est-ce qu'on peut essayer d'en construire une petite définition opérationnelle pour travailler avec simplement. Dans un deuxième temps, je vais essayer de me demander si les frontières sont vraiment des objets qui se contrôlent politiquement. Parce qu'évidemment, quand on est pris dans la rhétorique de la justice migratoire, on pense que, justement, une frontière, on peut en faire quelque chose, on peut décider de l'ouvrir ou de la fermer. Et c'est en fait une vision un peu bizarre de l'objet frontière. L'objet frontière, c'est autant un objet qui émerge, en fait, qu'un objet qui se contrôle politiquement. Et donc, je voudrais m'intéresser à cette question-là. Et puis, dans un troisième temps, je vais revenir sur ma question de départ, et donc essayer de démontrer avec ce que j'ai amassé en chemin, qu'il n'est pas tellement juste de définir la question de la justice migratoire comme une question de degré d'ouverture des frontières, et que la question du contrôle de frontières, en fait, c'est qu'un des aspects, des très très multiples aspects des questions de justice qu'on peut voir sous ce spectre-là. Voilà. Alors, je commence donc par ma première partie, en me demandant de quoi je parle quand je parle de frontières, et est-ce que je suis capable de donner une définition qui est à peu près opérationnelle de ce terme-là. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais partir de quelques-unes des images courantes qu'on a de la frontière pour essayer un peu de les démonter et de les travailler. Donc je vais un peu procéder en me donnant à chaque fois un repoussoir pour essayer de comprendre comment fonctionne la frontière. Donc j'ai quatre idées comme ça, qui sont plus ou moins évidemment fausses. L'idée que la frontière, c'est une ligne physique. L'idée que la frontière, ça sépare deux entités qui sont distinctes et qui sont différentes. L'idée que la frontière, ça existe parce qu'on la contrôle. Et l'idée qu'une frontière doit être ouverte ou fermée. Donc la première idée de départ, peut-être celle qui s'impose au début et puis celle qui est la plus facile à démonter, peut-être, c'est l'idée qu'une frontière, c'est une ligne physique, qui est la représentation qui nous vient naturellement quand on regarde les cartes géopolitiques. En fait, ce qui est problématique ici, c'est l'idée d'une ligne sans épaisseur. C'est très clair que c'est un idéal qui est un idéal de la ligne sans épaisseur, qui a une vérité dans les cartes, mais qui nous dit aussi que, justement, l'idéal moderne de la frontière, c'est qu'on sait nettement à qui appartient la juridiction d'un côté et de l'autre. Et donc ça nous donne un vrai... Ça nous indique très, très clairement un des rêves de la philosophie politique moderne, qui est que chaque endroit du globe appartienne à une juridiction, mais surtout à une seule, et d'éviter au maximum les recoupements ou les juridictions multiples que, par exemple, les historiens nous disent qu'on trouvait au Moyen-Âge, avec un même territoire qui, selon les cas, selon les heures, selon les usages qu'on en faisait, dépendait tantôt de telle juridiction ou de telle autre. Alors ici, l'idée de frontière, au contraire, au sens moderne, ça marquerait le moment où on s'efforce avant tout de simplifier les juridictions pour faire un monde en ordre, et donc dire que les frontières, ça fonctionne que si c'est des lignes définies, ça correspond à une représentation du monde qui doit être intégralement découpée, exhaustivement répartie entre des juridictions différentes. Et donc c'est une idée qui est très révélatrice d'un certain conception du monde géopolitique, qui doit surtout distinguer et répartir les responsabilités. Alors, là où on peut commencer à discuter l'idée, c'est que d'abord, bien sûr, la frontière, c'est souvent une ligne épaisse. D'abord parce que, ça va être mon premier exemple, parce qu'il peut exister pratiquement des frontières sans que la ligne de frontière soit effectivement fixée. Il peut exister une frontière sans qu'il existe de ligne de démarcation. Là, je m'appuie sur ce que disent les géographes quand ils disent que, voilà, au moment du marquage de la frontière, quand on va constituer une frontière, en fait, on peut distinguer trois temps. Ils disent qu'il y a le moment de l'allocation de la frontière, il y a le moment de la délimitation, effectivement, juridique, et puis enfin, il y a le moment de la démarcation physiquement, dans le sol. Et ce qui est assez intéressant du point de vue de la philosophie, c'est que Il peut y avoir énormément, une grande période de temps qui sépare la première étape, le moment où on a dit effectivement d'accord, on va séparer la frontière, du moment effectivement de la démarcation. Alors là, je m'appuie sur un exemple qui est devenu, qui est vraiment un exemple extrêmement travaillé par les gens qui s'intéressent aux frontières, qui est le cas de la frontière, du petit bout de frontière entre la France et l'Espagne, qui est en Cerdagne. C'est devenu un cas d'étude parce qu'il y a eu un livre magnifique écrit dessus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'allocation de la frontière entre, à ce moment-là, la France et l'Espagne a lieu lors du traité des Pyrénées, donc en 1659. C'est là qu'on décide que cette partie-là de la Cerdagne sera la France, l'autre partie sera l'Espagne. Mais l'accord précis sur la délimitation, donc l'accord précis sur la carte qui permet de dire que tel petit village est de ce côté-là ou tel autre, ça a lieu définitivement seulement lors du traité de Bayonne en 1868, donc pratiquement plus de deux siècles après. Et ce traité ne fait que précéder l'étape dernière qui est la démarcation physique de la frontière dans le sol. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la frontière pendant tout ce temps-là, elle existe réellement. Elle existe parce qu'elle a des effets pragmatiques très très forts sur la manière dont les gens vont se vivre et dont l'identité des personnes qui habitent ce coin-là des Pyrénées va se vivre. Mais elle existe sans qu'elle soit arrivée jusqu'au bout, jusqu'à la démarcation physique dans le centre qui semble plutôt être son idéal. Et dans ce cas-là, on aurait presque envie de dire qu'au lieu d'avoir une ligne, la frontière, dans ce cas-là, c'est la Cerdagne tout entière à ce moment-là. C'est la zone tout entière qui est concernée, qui se vit, qui se construit autour de cet objet de dispute en réalité. Alors, la deuxième remarque qu'on peut faire pour discuter cette idée de ligne, c'est que même lorsque la frontière est délimitée et bornée, en fait, la réalité de la frontière elle-même ne se réduit pas, bien sûr, à cette ligne, à l'épaisseur qui est idéalement nulle, tout simplement parce que l'existence de la frontière contribue à organiser le territoire tout autour. Alors ça se voit de manière manifeste quand on pense à tous les signes, les barrières, les no man's land qui peuvent exister, mais c'est clair aussi simplement dans la manière dont on va organiser, par exemple, les relations commerciales, les relations économiques. La zone entière se polarise autour du fait qu'il y a une frontière. Dans ce cas-là, le fait qu'il y ait une frontière, c'est beaucoup plus que simplement avoir une ligne, c'est avoir un territoire épais. Je reprends l'exemple des États-Unis et du Mexique. Là, c'est extrêmement travaillé. Les sociologues qui travaillent sur ce terrain-là disent souvent qu'il y a une identité qui se construit, qui n'est ni états-unienne ni mexicaine, mais qui est l'identité du fronteros qui vit là et qui se vit comme l'habitant de la frontière et de la zone frontière. Et donc ça nous ramène au fait qu'ici, la frontière, elle existe avant tout par les effets en termes de presque de psychologie des groupes qu'elle crée. C'est des faits de position des groupes par opposition. Alors je reprends mon exemple de la Cerdagne qui marche très bien de ce point de vue-là. Il y a un des épisodes qui est amusant donc dans le livre de Peter Salins qui décrit cette histoire-là et qui raconte que les premiers pour parler au moment où Mazarin commençait à débattre de cette ligne-là, pour eux, bien sûr, ils recherchaient une frontière naturelle. Alors, sans en être vraiment dupes, ils étaient très bien conscients que la frontière naturelle était avant tout faite pour répondre à leurs objectifs politiques, mais c'était important de pouvoir dire que la frontière était naturelle. Et le problème, c'est qu'à cet endroit précis des Pyrénées où ils cherchaient à faire passer leur frontière, et bien justement, on est dans une vallée, en fait, on est entre différentes cimes. Et donc la ligne des cimes se brouille complètement, il y a plusieurs lignes possibles, donc c'est très difficile, en fait, de repérer une ligne de crête où on peut dire, là, on a une frontière naturelle. Et donc il a fallu finalement faire passer la frontière au bout d'un certain moment, dans ce qui est, en fait, en termes techniques, un petit bout de plaine, un petit bout de vallée entre des cimes. Et alors là, je vous donnerai la diapo parce que je trouve qu'elle est très marrante. On a des cartes de l'époque où on voit que l'idée était tellement dérangeante pour les cartographes qu'en réalité, ils ont fait passer la frontière à bon endroit, mais ils ont ajouté des montagnes sur la carte, simplement parce que c'était une image d'âne que la frontière soit pas naturelle. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant en termes d'identité contraposée, c'est que, alors même qu'il y a ces discussions qui continuent pendant deux siècles sur exactement la démarcation, les effets identitaires de la frontière commencent à se mettre en route, à s'enclencher dès 1659. Et alors qu'en fait, on a un habitat qui est un habitat complètement homogène, avec des populations qui sont les mêmes, en gros, c'est des pasteurs, qui se vivent d'abord comme catalans à ce moment-là, Et bien tout d'un coup, le fait de pouvoir recourir à l'identité supplémentaire de Français ou d'Espagnol et de pouvoir recourir à un pouvoir politique autre a des effets très clairs, c'est-à-dire que des querelles tout à fait typiques autour des pâturages et des points d'eau qu'avant on réglait de manière locale avec les ressources locales, ben tout d'un coup vont pouvoir de temps en temps, de manière très pragmatique et utilitaire, être réglées en recourant de temps en temps localement. Alors si on avance un peu dans l'histoire, au député qui va en appeler à Paris, qui va, etc. Et donc le résultat de tout ça, c'est qu'on ne fait pas disparaître l'identité locale qui reste, mais on y ajoute des identités espagnoles et françaises qui vont se construire en opposition. Et donc ça, toute cette espèce de couches multiples qui font vivre la frontière sont en train de montrer qu'en réalité c'est pas tellement la ligne qui nous intéresse, c'est vraiment le rapport de tension, le rapport d'asymétrie. On est vraiment presque sur une question de tension électrique, on crée et on maintient une différence de potentiel qui a des effets sociaux importants. Alors j'en passe à ma deuxième idée, l'idée qu'une frontière ça sépare deux entités distinctes et différentes. Si je reprends l'exemple que je viens de donner, de la Cerdagne, c'est assez clair en fait. Dans ce cas-là, non, on n'a pas des entités distinctes et différentes, on a une seule entité avec un habitat homogène, une population homogène. Et justement, c'est le contraire. Si on a besoin de la frontière, c'est bien parce qu'ils sont trop semblables et que c'est pas facile de découper. Et donc en fait, l'idée qu'on vient, c'est que la frontière au sens politique du terme, elle existe justement que comme un maintien, comme presque la création et le maintien volontaire d'une différence. Et je crois qu'il y a une remarque linguistique là qui permet d'approfondir ce point, qui est la différence entre, alors ça marche en français, entre l'usage du mot bordure et l'usage du mot limite, ou frontière. Pardon, bordure ou limite, pardon, d'un côté, et l'usage du mot frontière. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de sens à parler de frontière quand on a deux choses qui sont trop évidemment différentes. Alors, si vous prenez le long de la mer et que vous cherchez la limite entre la mer et le sable, ça paraît très étrange d'appeler ça une frontière. C'est une limite, c'est un bord, c'est pas une frontière. Par contre, si vous êtes, si vous imaginez des enfants qui viennent jouer dans cette salle, qui se mettent autour de la table, voilà, et qui disent, qui sont assis ici et là, qui disent, là, c'est la frontière de mon territoire. En fait, on comprend très bien ce qu'ils veulent dire. Ils sont dans une situation, on a quelque chose qui est relativement homogène et distinct, mais on est dans une position où on a besoin de marquer des territoires et de définir des identités, et la frontière, justement, elle est là pour incarner ça. Et donc ça, je crois que c'est un point assez intéressant des frontières du monde politique, c'est qu'en réalité, elles sont d'autant plus contestées qu'elles séparent des choses qui, en fait, se ressemblent. Ou sont attirés l'une par l'autre, ou chercheraient à se ressembler. C'est le cas de, je ne sais pas si on prend l'exemple de la frontière États-Unis-Mexique, qu'on est du côté de San Diego, du Pacifique, la frontière se prolonge dans l'eau, et donc ça c'est presque le symbole même. On a quelque chose qui non seulement est commun, mais qui est même complètement indifférenciable, des zones de l'eau, de l'océan et des molécules d'eau qui bougent, mais on sait très bien où passe la frontière, et ça a des effets très nets si vous essayez d'y passer alors que vous n'avez pas le droit. Donc ça c'était pour un peu discuter cette deuxième idée qu'une frontière ça sépare des choses qui sont distinctes et différentes. Ça c'est ce qu'on aimerait bien, c'est l'idée de frontière naturelle. On aimerait bien que ça sépare naturellement et facilement des choses différentes, mais en réalité c'est d'autant plus fort et chargé politiquement que ça sépare des choses en fait qui se ressemblent et qui sont similaires. Ça m'amène à la troisième idée, l'idée qu'une frontière ça existe que par le contrôle. Alors ça semble être un peu la conséquence que je viens de dire. Si une frontière ça sépare des choses qui sont semblables, et si une frontière, c'est surtout une délimitation institutionnelle, alors il faut bien que ça se maintienne parce qu'il y a des groupes humains qui la contrôlent. Et en fait, je pense que c'est une idée qui est à la fois juste et en même temps qu'on peut discuter. C'est juste dans le sens où, effectivement, si un groupe n'est pas en mesure de tenir une frontière, la frontière n'existe que sur le papier. C'est le cas de, si on regarde en ce moment les cartes officielles de l'Inde, on voit qu'il y a des bouts de territoire qui apparaissent sur la carte officielle de l'Inde, mais qui en réalité ne sont pas du tout contrôlés par le gouvernement indien et qui sont contrôlés par les groupes locaux, c'est tout. Donc si on traçait une carte politique réaliste et pas diplomatique, le découpage ne serait pas pareil. Donc là, c'est clair, la frontière, dans ce cas-là, elle traduit une réalité de contrôle. Mais c'est faux dans le sens où l'efficacité d'une frontière, ça ne se mesure pas nécessairement sur place. L'efficacité de la frontière, en fait, elle traduit bien plus la consistance et l'efficacité de la juridiction qu'elle borde dans son ensemble. Et même si en ce moment, on est dans un moment de l'histoire où on adore construire des murs et on mure beaucoup les frontières et on crée beaucoup de grilles autour des frontières, en réalité, en encore maintenant, la grande majorité des frontières géopolitiques existantes sont des frontières non gardées. Donc là, c'est pareil, si vous regardez justement sur des cartes de Google Maps, la frontière entre la Norvège et la Russie, par exemple, il y a des kilomètres en trait de frontière qui sont dans des forêts. Hein, et donc, il n'y a aucun signe physique. Mais par contre, c'est une vraie frontière et je pense que personne ne songerait à le contester parce qu'on sait que chacun des deux parties maintient la polarité. Et en fait, on pourrait même dire le sens inverse. Parfois, le fait de militariser une frontière, donc le fait d'essayer de la tenir sur place, c'est précisément le signe de la faiblesse de cette frontière-là. L'exemple, c'est un des exemples qu'on prend souvent quand on commence à travailler sur les frontières, c'est d'aller regarder la Grande Muraille de Chine. Parce que, a priori, superficiellement, ça apparaît comme le signe d'une frontière qui existe, qui est marquée, etc. En réalité, quand on regarde un tout petit peu, on s'aperçoit que c'est complètement l'inverse, bien sûr. La Grande Muraille de Chine, c'est le signe de la faiblesse de l'Empire à ce moment-là, qui cherche constamment à se protéger, avec plus ou moins de succès, des envahisseurs qui sont plus au nord. Donc on a cette idée-là. Bien sûr, une frontière, ça n'existe que par son contrôle, mais le contrôle de la frontière, en réalité, il ne joue pas seulement sur lui-même, il se joue en réalité de manière beaucoup plus forte sur les deux zones qui s'opposent. Alors, quatrième idée, il faut qu'une frontière soit ouverte ou fermée. Alors, bien sûr, là, c'est une idée facile à contester, ça me sert surtout, en fait, à souligner que, ben non, une frontière, c'est intéressant parce qu'il y a tous les états intermédiaires possibles. Une frontière, justement, c'est une frontière filtre. Et il y a tous les états intermédiaires entre le mur qui est infranchissable et puis l'absence totale de marquage. Et donc, comme tout filtre, justement, tout l'intérêt, c'est de savoir comment est-ce qu'on ferme ou on ouvre le maillage en question. Donc, avec ces petites réflexions et ces idées-là que j'essaie de discuter, j'arrive à une définition assez simple de la frontière, qui est de dire, bon, la frontière, c'est une division institutionnelle qui va distinguer dans l'espace les groupes humains. Cette frontière, elle peut être matérialisée dans l'espace ou non. Elle peut être ouverte ou fermée, mais ça, en fait, c'est pas l'intérêt. L'important, le plus important pour la définir comme frontière, c'est qu'elle crée un différentiel, c'est qu'elle crée une asymétrie entre des groupes et entre les règles du jeu, on pourrait dire, qui valent d'un côté du territoire ou de l'autre. Alors on pourrait dire que dans ma petite définition de travail, là j'ai oublié un mot important, qui est le mot État. Et est-ce que les frontières, donc au sens où je viens de les définir, sont nécessairement des limites entre les États, ou eh bien est-ce qu'il peut exister des frontières à d'autres échelles? Alors, ce qui plaide en faveur de l'idée que la frontière, au sens plein du terme, c'est la frontière étatique, c'est une thèse qu'on trouve souvent dans la littérature, et qui dit que la frontière est un concept essentiellement moderne. Alors, d'ailleurs, dans la discussion, Je ne sais pas si vous avez rencontré cette idée, ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que je trouve ça difficilement crédible. C'est-à-dire, il y a cette thèse qui dit que la frontière, c'est un concept essentiellement moderne, que la frontière, au sens plein du terme, n'existe qu'à partir de l'État westphalien, etc. Et ça semble être confirmé par l'histoire qui dit que, voilà, on n'a jamais autant créé de frontières que depuis le 19e et le 20e siècle. Mais ça me semble discutable pour deux raisons. D'abord parce que si on prend des exemples, je ne sais pas, si on prend le mythe de Didon qui découpe avec sa peau de bœuf pour faire les limites de sa ville, c'est un concept de frontière qui me semble assez superposable au concept contemporain de frontière. On n'est pas dans un monde westphalien d'État-nation, mais on a une frontière qui, à mon avis, remplit à peu près le même rôle et joue de la même façon que les frontières géopolitiques qu'on trace sur la carte. Mais d'autre part, justement, à mon avis, ce type de frontière-là, avec le différentiel institutionnel, il n'y a aucune raison pour dire, a priori, qu'elle ne peut être que nationale. On peut dire une chose, on peut te soutenir la thèse que maintenant, c'est les États-nations qui définissent les frontières les plus importantes. C'est une thèse empirique sur l'état du monde aujourd'hui. Mais au niveau conceptuel, je pense qu'il n'y a aucune raison de lier ou de dire que la frontière de l'État-nation soit conceptuellement différentes d'autres types de frontières. Alors du coup, si je pousse dans ce compte-là, on peut me dire, mais du coup, est-ce que toute division institutionnelle, dans ce cas, devient une frontière? Alors, je crois que là, si on en vient, on peut prendre des cas d'études. C'est clair que toute division institutionnelle ne sera pas nécessairement bâtie de frontières. Si je prends la division entre les départements français actuels, on a une division institutionnelle qui remplit certains rôles et qui crée certains différentiels. Pourtant, si je me mets à appeler ça une frontière, ça va sembler bizarre. Et je crois que la raison pour laquelle, dans ce cas-là, on appelle ça frontière, c'est qu'on pourrait dire que de part et d'autre de la division institutionnelle, on joue à peu près selon les mêmes règles, même si c'est pas exactement le même préfet ou le même conseil général qui vaut. En revanche, il me semble qu'on parle de frontières, qu'il y ait une division institutionnelle ou pas, quand les règles du jeu ne sont pas les mêmes de part et d'autre. Je prends un exemple qui m'avait frappé, parce que j'ai passé un peu de temps à Chicago. Et à Chicago, si vous allez à l'université, on vous apprend très vite que telle rue, il ne faut pas la franchir, parce que là, c'est le ghetto. Ce n'est pas du tout une frontière institutionnelle, ça n'existe nulle part dans les cartes administratives, cette 60e rue en question. Mais c'est une frontière très claire, et ça ne me semble pas bizarre du tout d'appeler ça une frontière, parce que l'idée, c'est que justement, on ne joue pas selon les mêmes règles de part et d'autre. Votre comportement, ce qui est admissible ou pas, ce qui est considéré comme acceptable ou pas, n'est pas du même ordre. Et à mon avis, c'est ça, à mon avis, qui fait la différence entre ce qu'on va appeler une limite ou simplement une division institutionnelle, disons, sans tension, et ce qui est véritablement une frontière avec une négociation des règles du jeu de part et d'autre. Alors si je reviens à mon exemple, ce sera mon dernier exemple pour cette partie-là, si je reprends mon exemple que j'ai cité tout à l'heure de The Beast, du livre donc, sur les migrants illégaux d'Amérique centrale vers le Mexique, je pense que c'est un bon exemple où on voit ça, c'est-à-dire clairement on a les frontières nationales, et elles ne sont pas discutables, et c'est vraiment des lieux de tension, mais on a aussi, quand on suit la description qu'en donne le journaliste, on a aussi plein d'autres endroits dans le trajet qui jouent des effets de frontières. Et notamment, quand vous passez, alors c'est l'effet le plus frappant, mais quand vous passez du territoire d'un gang à un autre, vous êtes en train de traverser une frontière. Et ce qui fait la frontière, c'est que les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Quand vous entrez dans l'asile pour migrants qui est tenu par les prêtres, vous changez aussi, vous êtes comme dans une petite juridiction à part, etc. Donc vous avez des tas d'effets de frontières qui se jouent à des niveaux différents. Mais alors évidemment, ce qui est embêtant pour les philosophes qui aiment bien les abstractions, c'est que là, pour le coup, vous ne pouvez absolument pas déterminer a priori où est la frontière. Alors vous avez besoin de lire le compte-rendu qu'en fait Oscar Martinez qui a fait le chemin pour le croire et pour savoir que oui, en fait, c'est là que joue la frontière de manière empirique. Vous ne pouvez absolument pas le déterminer autrement. Alors, j'en viens à la deuxième partie. Jusqu'à présent, j'ai essayé de donner une définition qui était, disons, une définition un peu statique de la frontière. Je me suis demandé, si je prends une photo des frontières maintenant, quelles sont leurs caractéristiques. Ce que j'aimerais faire maintenant dans la deuxième partie, c'est essayer d'en donner une définition dynamique. C'est-à-dire me demander, qu'est-ce que je peux faire avec une frontière? Comment ça se travaille? Quelle prise on a dessus? Dans quelle mesure est-ce que ça nous détermine? Dans quelle mesure est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui est façonné par nos décisions humaines? Bref, comment est-ce que ça se gère et comment est-ce que ça se négocie? Et donc bien sûr, c'est une manière d'aller progressivement, de revenir progressivement vers ma question migratoire que j'avais introduite. Alors je vais distinguer deux logiques d'action principales. Je revendique pas l'originalité sur ces deux distinctions-là, mais je voudrais simplement, je les trouve opératoires, je voudrais les travailler. On peut faire jouer la frontière d'abord comme un front. Et dans ce cas-là, la logique qui prédomine, c'est une logique d'extension et de protection. Alors, vous cherchez à voir si vous pouvez maintenir votre ligne, tenir votre ligne de front, sans la déplacer vers l'intérieur, et si possible, si ça vous intéresse, en l'étendant vers l'extérieur. C'est la première logique. Et puis, vous pouvez faire jouer la frontière comme un filtre, et dans ce cas, c'est une logique différente. Parce que dans le premier cas, ce que vous cherchez à maîtriser, c'est l'étendue du territoire, qu'englobe votre frontière. Alors que dans le second cas, l'étendue de territoire, en fait, est fixe. Et ce que vous cherchez à maîtriser, c'est le type de biens ou le type de personnes qui vont pénétrer sur ce territoire. À mon avis, c'est deux logiques qui sont assez différentes dans la manière d'essayer de faire fonctionner frontières. Alors, la frontière comme front, c'est peut-être le sens le plus évident. C'est celui que, historiquement, on commence toujours par ressortir. On considère, dans ce cas, que la frontière, c'est le lieu d'un rapport d'une force ou, en tout cas, d'une recherche d'équilibre entre deux puissances qui ont une extension territoriale. Et dans ce cas, on peut agir sur la frontière, pour revenir à ma question, qu'est-ce que je peux en faire de cette frontière-là? Eh bien, je peux essayer de modifier son extension. Et là encore, je souligne que ce travail-là, il ne vaut pas seulement pour la frontière nationale, il vaut pour n'importe quel type de frontière. Dans ce cas, ça vaut bien sûr pour les frontières au sens westphalien du terme. Je peux faire la guerre, je peux étendre mon territoire ou je peux essayer de le défendre. Mais ça vaut aussi pour ces frontières qui sont à des échelles différentes. Je reprends mon, un exemple de la 61e rue à Chicago. C'est aussi une frontière que vous pouvez considérer comme un front et qui bouge. Et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Eh bien, vous pouvez faire ce que fait d'ailleurs en ce moment l'Université de Chicago, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des terrains au sud de cette frontière, vous pouvez y mettre votre police de l'université, vous pouvez y construire des cafés sympas pour les étudiants. Et puis, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mangé un petit bout de territoire sur ce qu'était le ghetto et vous avez une négociation. Donc là, à mon avis, on a vraiment une question qui est une question de rapport de force, de capacité à faire valoir ces règles du jeu sur un territoire donné, et qui est le même, ou en tout cas qui peut se décliner à différentes échelles de la frontière. Et alors, ce qui est frappant aussi dans ce cas, c'est que l'intervention qui cherche à étendre la frontière, elle va fonctionner durablement seulement si ce n'est pas seulement une intervention à cet endroit-là sur la frontière, mais elle va fonctionner que si c'est une intervention indirecte sur l'ensemble du territoire qu'on va réussir à contrôler. Et donc la capacité à déplacer la frontière de ce côté-là, ça dépend en fait de la capacité de moyen terme à assurer la prévalence des règles sur le territoire qui gagne. Et alors il y a un très joli exemple en creux de ça, enfin, c'est un exemple que, en tout cas moi j'ai trouvé qui m'a beaucoup frappé quand je l'ai découvert, qui est l'exemple des conquêtes d'Alexandre le Grand. Alors la vision occidentale, ça consiste à dire, voilà, Alexandre, c'est un grand conquérant, et donc il a largement étendu son empire en conquérant des terres jusqu'à l'Indus. Et donc on est sur un système de frontières front, où on étend, et c'est incroyable parce qu'il a conquis très vite, et donc il a beaucoup étendu, mais la preuve justement, c'est qu'il est allé trop vite, qu'il n'a pas réussi à contrôler, c'est que dès qu'il est mort, tout s'est fragmenté. Mais là, en réalité, je crois qu'on peut travailler l'exemple de manière encore plus intéressante, parce que quand on regarde la carte de l'Empire d'Alexandre, c'est la même carte que la carte de l'Empire achéménide, juste avant que Alexandre ne fasse la conquête de son territoire. Autrement dit, si on arrête de regarder Alexandre du point de vue de l'Occident et on se regarde du point de vue de l'Empire perse, ce qu'on voit, c'est pas du tout un grand conquérant qui fait bouger des frontières et des lignes de front. Ce qu'on voit, en fait, c'est un usurpateur venu des confins de l'Empire, très, très typique, qui renverse le pouvoir central et qui ensuite fait le tour de tout l'Empire pour assurer la soumission des personnes sur le territoire. Autrement dit, Alexandre, dans ce cas, il n'a rien fait du tout. Il a fait bouger au coup de mine, les lignes de force, elles étaient là, et il les a simplement reprises. Et simplement, la rébellion ensuite fragilise l'Empire, et ensuite on peut avoir des théories sur pourquoi les frontières gardent pas. Mais en fait, la question fondamentale que ça pose, c'est du coup, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'élargir des frontières? Qu'est-ce que ça veut dire que conquérir un territoire? Et qu'est-ce qui fait que faire passer, essayer de soumettre un tel chef local compte comme l'extension des frontières ou compte comme au contraire une unification ratée, une fragmentation des frontières? Et là, on a quelque chose qui est très intéressant en termes de... Voilà, pour discuter l'idée de frontières nationales, pour comprendre ce qui vaut comme une véritable limite de... Comment est-ce qu'on découpe le monde et comment est-ce qu'on comprend ce qui vaut comme une limite générale ou au contraire ce qui vaut comme une subdivision à l'intérieur d'un empire? C'est une assez belle question. Alors toujours dans cette logique qui se concentre sur le territoire, bien sûr on peut noter que les frontières, je ne peux pas seulement les déplacer et les étendre, plus radicalement encore, on peut les créer. Et donc ça c'est le grand jeu auquel les puissances européennes ont aimé jouer au 19e au 20e siècle, essayer de faire tracer des frontières. Et de faire apparaître des nouveaux systèmes. Et alors, on peut regarder quelques cas de situations où ça a fonctionné, où ça n'a pas fonctionné, et regarder un peu quels sont les effets créés par la frontière. Alors, il y a un exemple typique qu'on pourrait prendre qui est les frontières de l'Afrique. Je vais en prendre un autre qui ressemble par certains traits, qui est l'exemple de la création des républiques d'Asie centrale. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on a un recours explicite à l'État-nation westphalien pour créer ces frontières-là, donc Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan. L'idée, c'est que, et c'est une ironie de l'histoire, l'idée, c'est que ces frontières-là, elles sont créées par l'État soviétique, par Moscou, qui dit que pour arriver jusqu'à véritablement créer une union soviétique, et ben pour... suivre la marche logique du développement de l'histoire, il faut que les peuples qui habitent là en passent par l'étape des États-nations. Sinon, ils n'arriveraient pas directement à entrer dans la vision soviétique. Et donc, on a le cas de frontières qui sont créées par Moscou, avec l'idée de créer l'étape État-nation, qui nous amènera au chemin suivant. Et donc ces États, ces frontières de territoire, elles sont créées de manière relativement artificielle, comme tout ce qui... Il n'y a pas d'autre moyen quand on crée des frontières de ce type-là. C'est-à-dire que ça va complètement recomposer les identités et des gens qui, de manière identitaire, s'identifient avant tout par leur langue ou par leur profession ou par leur habitat. Tout d'un coup, on va leur demander de s'identifier comme une nation, ce qui évidemment ne recoupe pas nécessairement les découpages intérieurs. Et ce qui est fascinant, c'est qu'évidemment, sur le moment, ça produit des violences assez considérables, mais au bout de deux générations, les gens s'identifient comme étant appartenant à cet État. Et donc là, on a un exemple qui est à la fois effrayant et fascinant, hein, du pouvoir très très fort de la création des frontières, qui au bout de quelques générations vont avoir un effet sur l'identité. Alors quand on regarde les débats actuels qu'il y a aussi bien sur l'Écosse d'une part que sur la Catalogne de l'autre, on a toujours l'impression que voilà, les États-nations sont écrits dans le marbre et que les identités des gens prennent du temps à bouger. En réalité, ça prend littéralement trois générations, hein, de recréer une identité nationale ou pas. Et c'est cet aspect extrêmement volatile qui est très intéressant quand on s'intéresse justement à la substance des frontières nationales. Et puis il y a aussi des cas où ça marche pas. Donc là, je prends un des cas qui est intéressant, hein, qui on a essayé de faire la même chose pour découper l'Empire ottoman en 1920. Donc traité de Sèvres prévoyait un découpage de l'Empire ottoman, et puis ça marche pas parce qu'en réalité on a la Turquie d'Atatürk qui dit bah non, le découpage ne correspond pas à notre réalité, qui est suffisamment puissant pour résister au découpage du territoire. Donc on a des cas où cette création de frontières, elle va nous ramener à des questions d'enjeux politiques et d'enjeux géopolitiques et d'enjeux identitaires, qui sont de l'ordre du rapport de force. Alors dans cette logique, je fais jouer la frontière comme la limite d'une souveraineté, et le centre de l'attention, c'est les limites territoriales de cette souveraineté qu'on observe de l'extérieur. Et donc la marge de manœuvre qu'on a dans l'établissement de la frontière, ce que je peux en faire, autrement dit, c'est lié au rapport de force que je peux établir avec la personne qui me regarde de l'autre côté. Et donc on a tout un aspect belliqueux, hein, dans ce cas de la frontière comme front, qui peut être renforcé par des bastions, des fortifications, des murs, etc. Alors si on mentionne le fait de murer les frontières, on pourrait dire on a une continuité complète entre les frontières de la France de Vauban, hein, je mets des petits forts partout et j'essaye de militariser ma frontière, et puis les frontières contemporaines de l'Europe et des USA à certains endroits, où on construit de nouveau des murs et des filtres et des barbelés. Mais à mon avis, cette apparence de continuité, elle est trompeuse, parce que la grande différence entre les murs passés et les murs qu'on érige de manière contemporaine, c'est que dans ce cas-là, dans notre cas présent, on se défend non pas contre la conquête par un État qui veut élargir sa souveraineté. Le problème, c'est pas qu'on a peur de se faire envahir par le Mexique. Le problème, c'est qu'on a peur de se faire envahir par les Mexicains. Donc on a peur de... On veut pas faire englober plus de personnes à l'intérieur de ces limites territoriales. Et donc on est dans une logique qui, en fait, me semble assez différente de la frontière, où le point d'attention, c'est plus en fait l'étendue du territoire, puisque celle-ci va être tenue comme fixée. Le point d'attention, c'est les personnes et les biens qui vont entrer sur ce territoire. Et donc dans ce cas, la frontière, elle va jouer non pas dans une logique expansionniste, mais dans une logique de sélection. On fait entrer ce qui est désirable et on laisse de côté ce qui est considéré comme indésirable. Alors quelle est la marge de manœuvre dans ce cas? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette frontière au sens de filtre? Alors je reprends l'exemple paradigmatique de ce modèle-là, hein, qui est la frontière USA-Mexique. Dans ce cas-là, contrôler la frontière, ce serait quoi? Ce serait s'approcher aussi près que possible d'un idéal, dont on peut bien sûr se demander comment il est défini, hein, qui dirait que seules ces personnes-ci et ces biens-là ont le droit d'entrer sur le territoire. Et contrôler la frontière, ça veut dire que les gens qui rentrent effectivement sont bien les gens autorisés et pas les autres. Alors quelles sont les options que vous avez dans ce cas, si vous cherchez à faire ça? Les options sont simples, hein, vous pouvez contrôler plus ou moins étroitement. Vous pouvez décider que vous ne contrôlez pas du tout à la frontière, que vous contrôlerez sur le territoire, éventuellement, ou que vous aurez des contrôles indirects. Ou vous pouvez décider de faire jouer le contrôle à la frontière elle-même. Et c'est évidemment ce qui est en train de se passer en ce moment. On essaie d'externaliser de plus en plus le contrôle et de le mettre vraiment sur la ligne de frontière, et si possible, même un pas en avant dans le territoire de l'autre. Alors ce qui est fascinant dans ce cas-là, c'est qu'on a une espèce de prégnance très forte de la métaphore de la mécanique des fluides, hein, pour comprendre comment vont jouer ces frontières filtres. De part et d'autre, hein, des deux camps politiques, c'est-à-dire du côté des gens qui vont défendre une politique frontière stricte, vous allez avoir toutes les métaphores du flux à endiguer, hein, qui vont venir. soit au contraire du côté des gens qui vont plutôt défendre la mobilité, défendre les droits des migrants, vous allez trouver la métaphore inverse qui est que de toute façon l'eau ça trouve toujours un moyen de s'infiltrer entre les failles et que si vous mettez un barrage, et ben, l'eau va trouver une solution de contournement. Voilà. Et donc là on retrouve l'idée hein, que pour que la métaphore de la mécanique des fluides fonctionne, et ben, il faut que vous ayez un courant qui soit créé par une asymétrie, hein, en l'occurrence c'est bien l'asymétrie qui va créer le problème de la frontière USA-Mexique. Plutôt qu'à la frontière USA-Canada, qui fait qu'on cherche des digues qui permettent de considérer le courant. Alors, quelle est la marge de manœuvre? Vous pouvez avoir peu de contrôle à la frontière avec le spectre, hein, qui est toujours agité d'un débordement de l'immigration illégale, quelle que soit la manière dont vous donnez substance à cette menace-là. Soit vous avez un contrôle à la frontière qui va antagoniser et qui va traiter le symptôme et non la cause, ce qui est ce qu'on voit de manière très claire en ce moment avec l'immigration mexicaine. Donc ici, évidemment, j'en reste à un niveau purement descriptif. Je ne suis pas encore en train de me demander si c'est bien ou pas, ou si c'est juste ou pas. Ça, j'essaierai de me le demander dans la partie suivante. Pour le moment, je me contente juste de décrire voilà, les effets et les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et donc là encore, ce qu'on peut souligner, c'est que ce type de frontière filtre, elle ne vaut pas seulement pour les frontières nationales. Et donc, je prends un exemple qui sera mon dernier exemple là, pour cette deuxième partie. Alors c'est de nouveau un exemple qui vient de l'Asie centrale, c'est un exemple qui me vient d'amis archéologues. Ils me disaient qu'une des énigmes archéologiques qu'ils ont en ce moment en Asie centrale, c'est qu'autour des oasis, hein, donc autour de Samarcande ou de lieux comme ça, vous avez des murs bas hein, qui existent à une trentaine de kilomètres autour des oasis, des murs en terre. Et alors c'est étonnant parce qu'ils correspondent a priori à aucun découpage géopolitique et puis c'est pas des murs défensifs, c'est des murs qui étaient comme ça et c'est pas parce qu'ils se sont écroulés, c'est parce qu'ils étaient comme ça. Et donc du coup l'interprétation qui est souvent donnée, en tout cas moi qui me plaît bien parce qu'elle m'arrange, c'est que en fait dans ces sociétés-là d'Asie centrale, donc en Moyen-Âge, on avait deux types sociaux, de groupes sociaux bien distincts. On avait des nomades qui avaient leurs bêtes et qui faisaient paître leurs bêtes dans la steppe. Et puis il y a les agricultures. Et comme c'est des zones assez arides, vous avez besoin d'agriculture irriguée avec des canaux. Ça demande beaucoup d'entretien. Ça demande une structure politique assez centralisée. C'est compliqué à mettre en place. Et donc ces murs qui ne sont pas très hauts, une des explications qu'on peut leur donner, c'est qu'ils sont là, bien sûr, pour empêcher les bêtes de venir sur la zone irriguée et de tout détruire. Et donc c'est un très joli exemple de filtre, parce que ces murs-là, bien sûr, ils gênent pas du tout la circulation entre les deux groupes. Il y a des interactions constantes entre les groupes nomades et les groupes sédentaires, qui ont besoin l'un de l'autre pour vivre de manière... pour maintenir leur mode de vie. Et on a simplement une frontière, qui est une frontière... dans le territoire qui a un filtre puisqu'elle ne bloque que ce qu'on ne veut pas laisser rentrer, en l'occurrence les bêtes, et qui laisse passer toute la dynamique autour. Et donc à mon avis c'est un joli exemple comme ça de frontière filtre et qui répond à une fonction bien particulière tout en laissant le système entier s'organiser hein, avec les interactions nécessaires. Donc pour conclure la deuxième partie, j'ai voulu me demander à très grand trait hein, ce qu'on peut faire avec une frontière. Et donc j'ai distingué deux paradigmes. Le premier paradigme, il s'intéresse au territoire. Et donc la frontière, c'est le marqueur d'un rapport de force. Et dans ce cas, vous pouvez en fait pas faire grand-chose à la frontière directement. La frontière, ça va être le symptôme de votre capacité à maintenir un territoire et à l'agrandir ou à le laisser se faire manger par les règles du voisin. Le second paradigme, c'est le paradigme de la frontière filtre. Et donc là, la frontière, elle va servir de démarcation entre les biens et les personnes désirables ou estimé indésirable. Et donc la marge de manœuvre, c'est entre le filtre totalement ouvert et le filtre totalement fermé. Et encore une fois, pour le moment, je ne pose pas de questions normatives. Avec cette métaphore hydraulique hein, qui va venir de manière très très constante nourrir les discours sur le fonctionnement de la frontière. Alors j'en viens à ma troisième partie, en essayant cette fois de réintroduire la question de la justice migratoire qui me préoccupait au début. Et donc la thèse que je voudrais défendre, c'est que la question de la justice migratoire, à mon avis, elle est en fait mal formulée lorsque, comme c'était mon cas au début de mon projet, lorsque on la présente comme une question qui se règle aux frontières nationales. Et à mon avis, les discours de l'ouverture et de la fermeture des frontières, de ce point de vue-là, ils sont tous les deux problématiques pour des raisons bien sûr très différentes. Le discours de la fermeture des frontières, il est problématique en deux mots. Parce qu'ils pensent qu'une frontière, ça se contrôle beaucoup plus que ça n'émerge, Et comme le cas du contrôle de la frontière USA-Mexique le montre, une frontière, ça se contrôle très difficilement et à des coûts humains et économiques très très forts. Mais le discours de l'ouverture des frontières en disant « mais c'est simple, on a simplement quelque chose d'arbitraire et contingent, il faut l'enlever » du point de vue de la théorie politique, il est lui aussi, à mon avis, erroné, tout simplement parce que, là encore, il néglige le fait que les frontières, ça émerge. Et vous pouvez décider, par exemple, de supprimer le filtre qui est le visa, mais vous ne supprimez pas le fait que, par exemple, vous avez tout un tas de régulations sur qui a tel droit, qui a le droit d'acheter tel bout de terrain, qui a le droit de se marier avec qui a le droit de faire partie de tel groupe, qui a le droit d'avoir des droits sociaux, type, etc. Autrement dit, si on dit que le problème de la justice migratoire, c'est qu'on a des frontières nationales qui bloquent des gens aux portes, on manque un des problèmes principaux qu'en réalité, le système entier, notre fonctionnement politique entier, est fondé sur des groupes qui définissent des règles d'inclusion et d'exclusion pour avoir accès à certains droits sociaux. Et que les frontières nationales, de ce point de vue-là, c'est un des éléments du système, mais qui ne suffit pas de faire sauter cet élément-là du système pour régler le problème de justice posé par l'inclusion ou l'exclusion et les règles d'inclusion ou d'exclusion. Alors, je vais simplement approfondir un tout petit peu ce point. Quand on pense que la question de la justice migratoire se résout aux frontières nationales, on a souvent une métaphore, en tout cas elle intervient souvent dans la philosophie politique, qui consiste à dire la situation qu'on peut estimer comme juste, c'est la situation où tout le monde a un état au-dessus de sa tête pour prendre soin de ses droits particuliers. C'est un peu une conception de la justice parapluie. Hein. Il faut que tout le monde ait un parapluie au-dessus de sa tête. Finalement, la question de changer de parapluie, elle est secondaire. La question primaire, c'est qu'il faut que vous soyez couvert. Et donc c'est pour ça que les apatrides ou les réfugiés politiques, c'est une situation particulière. C'est des gens sans parapluie, alors vous êtes obligé de les accueillir sous le vôtre. Mais le fait de changer de parapluie, c'est considéré comme secondaire et que chaque État, du coup, est libre de gérer ses frontières comme il l'entend. Alors ce qui est frappant, c'est que cette vision des choses va considérer en fait que la norme, c'est la sédentarité. Alors là encore, si ceux qui connaissent Ferenza Dumitru vont reconnaître des thèmes dont on discute beaucoup avec elle, hein, que la norme, c'est la sédentarité et que la mobilité internationale, c'est une exception qui demande que des arrangements à la marge. Et alors ce qui est problématique dans cette vision, c'est évidemment la manière dont elle va découper entre différents types de mobilité. Alors, la mobilité Paris-Lyon, c'est une chose, mais la mobilité Barcelone... Perpignan, c'en est une autre. Et la question, évidemment, qui ressurgit, c'est la question de l'arbitraire hein, dans la détermination de certains types de mobilité. Alors, j'en reviens à mon deuxième point hein, qui disait, mais même les partisans de l'ouverture des frontières ont besoin d'en dire plus parce que ouvrir les frontières, c'est trop vague. Hein, ça nous laisse avec le problème tout entier, qui est le problème des règles d'inclusion ou d'exclusion. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le nerf de la guerre, en fait, c'est pas le degré de fermeture des frontières nationales au sens du degré de dureté de votre politique de visa, c'est beaucoup plus largement le degré de fluidité ou d'inclusion de tous les différents groupes que vous créez dans la société pour accorder des droits. Je prends un exemple qui va aller en deçà de l'échelle nationale. Je ne sais pas si vous connaissez le système chinois du hukou, ça vous dit quelque chose. Donc c'est un système, on pourrait dire, presque de passeport interne. Chaque citoyen est enregistré dans son lieu de naissance. Et on a un hukou, notamment, qui est rural ou qui est urbain. Et donc l'intérêt de ce hukou, du point de vue du gouvernement, c'est bien sûr de gérer la mobilité et d'éviter des immigrations massives vers les villes. Alors ce qui se passe, c'est qu'en pratique, les gens le font quand même. Et donc pour donner une idée d'ordre de grandeur, en ce moment à Pékin il y a 30 millions d'habitants apparemment, et il y en a seulement 20 millions qui ont le hukou de Pékin, et donc ça veut dire concrètement qu'il y a 10 millions d'habitants qui ne l'ont pas, et donc qui n'ont pas droit à ce type, aux droits sociaux, sanitaires, éducatifs qui sont afférents à ce hukou, et que leurs enfants non plus, hein, même s'ils sont nés à Pékin, ils auront le hukou d'une contrée rurale très, très lointaine. Alors ici, il n'est pas question de frontières nationales, il n'est pas non plus question de contrôle aux frontières. Vous n'avez pas une frontière autour de Pékin où on vous demande de votre papier administratif. Mais ce dont il est question, c'est qu'il est question de mobilité, il est question de justice et de CRIF dans les critères de la mobilité et dans les règles d'accès et d'inclusion à certains types de droits. Et à mon avis, quand on parle de la question des frontières, de la migration en plaidant pour les frontières ouvertes, en fait, l'étape d'après, on va buter contre ce type de problèmes qui ne sont plus des problèmes de frontières nationales, qui sont des problèmes d'inclusion et d'exclusion à toute une échelle de niveau, hein, pour tous les biens et pour tous les services que propose une société. Alors j'en reviens à ma question, à mon exemple de départ pour conclure. J'avais pris tout à l'heure l'exemple des migrants d'Amérique centrale qui cherchent à monter aux États-Unis. La question fondamentale, en fait, ça va être de savoir la différence entre ce que je considère comme mes problèmes et ce qu'on considère comme n'étant pas mon problème, du point de vue d'un citoyen états-unien. Je suis états-unien, un salvadorien arrive à mes portes parce qu'il se sent menacé par les maras salvatrucha, qui ont l'air, d'après la description, extrêmement peu sympathiques. Et je refuse qu'il entre en disant que c'est pas mon problème, hein, c'est pas mon pauvre, j'ai mes pauvres à la maison, et celui-là, je peux pas le laisser rentrer. Clairement, ici, le problème, c'est pas la frontière, hein, le problème, c'est le pouvoir du gang en question, qui est suffisamment puissant pour chasser quelqu'un de chez lui sans qu'il y ait contrôle de l'État. Et ce qu'il y a d'injuste, c'est que quelqu'un naisse dans un pays tel que être tué par un gang soit une probabilité tout à fait solide et peu plaisante. Et donc la seule réponse possible à quelqu'un qui voudrait répondre « mais c'est pas mon problème, hein, c'est effectivement un problème touchant de charité, mais c'est pas un bon problème de justice », c'est une réponse qui serait brutalement factuelle, qui serait de dire « mais de toute façon il est en train de passer, de toute façon il est en train d'essayer de traverser le rio Grande, et donc de fait c'est ton problème, de fait c'est votre problème ». Alors où est-ce que je veux en venir avec cette idée de « c'est pas mon problème, c'est mon problème », c'est qu'à mon avis la question de justice qui se passe ici, tout à l'heure, je disais, pardon, les questions de migration, elles ont tendance à éluder le problème de la justice pour retomber sur la charité. Et donc, le problème qui se pose, à mon avis, c'est pas tellement de dire il faut supprimer les visas. Le problème qui se pose à nous, c'est d'expliquer comment je dois me sentir concernée ou pas par le problème moral que pose, et politique, hein, que posent les revendications de justice d'un autre. Et alors, dans ce cas, ce qu'on se trouve à constater, c'est qu'on a deux logiques différentes. On a une logique qui consisterait à dire, eh ben, c'est pas compliqué, les communautés politiques, elles sont définies. On a quelque chose qui s'appelle les États-nations et qui disent que j'ai des devoirs particuliers à l'égard de mes concitoyens et pas des autres. Problème réglé. Le reste, c'est du superfétatoire, c'est de la charité. Il y a une autre manière de regarder les choses qui dit, on a des rapports de fait, factuels, empiriques avec les gens, simplement parce que vous êtes sur les mêmes territoires et qu'il y a des gens qui frappent à votre porte. Et que vous devez essayer de trouver des résolutions à ces problèmes politiques, à l'endroit où ils se posent, avec les revendications qui se posent. Évidemment, c'est une manière qui a tendance à court-circuiter complètement l'approche par les États-nations. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une approche qu'on retrouve dans deux traditions de philosophie politique qui, a priori, n'ont rien à voir, qui sont la première, qui est la tradition cosmopolitique, et la deuxième, qui sont la manière actuelle dont travaillent les théories du Caire. Cosmopolitisme, pourquoi ? Parce que les théories cosmopolitiques qui étaient parties généralement en travaillant l'idée de gouvernement qui passerait au niveau supranational, en ce moment travaillent énormément pour au contraire essayer de penser une pensée cosmopolitique qui se construirait à partir du local. Donc comment est-ce qu'on essaye de dépasser l'État-nation, quelque part par le bas, et en reconstruisant des communautés politiques qui sont des communautés de, je ne sais pas comment on peut dire ça, de concern, non, de communautés qui prennent en charge, qui donnent une figure politique à ceux qui, de fait, se posent comme problème empirique sur le sol, hein, qui répondraient de manière très empirique à la question, de fait, j'ai des gens d'Amérique centrale qui frappent aux portes pour telle et telle situation, et de fait, j'ai besoin, politiquement, de trouver une échelle de communauté pour répondre. Mais c'est la première chose. Et la deuxième tradition, et donc c'est simplement des pistes là, que je ne vais pas explorer jusqu'au bout, la deuxième tradition qui est d'un ordre tout à fait différent et qui pointe vers ça, à mon avis, c'est la manière dont en ce moment se développent les théories du Caire, donc en étant parti, a priori, de considérations d'abord morales, puis en essayant de dire qu'effectivement il y avait une théorie politique derrière et qu'il y avait une théorie politique aussi qui était pertinente à l'échelle mondiale. Et ce qui m'intéresse, c'est des théories qu'on peut trouver dans les tout derniers textes de Toronto, où elle dit que finalement ce qui définit la pertinence politique des liens et des droits, c'est le fait qu'il y ait une relation. Et donc là, de nouveau, on n'est pas du tout sur une revendication abstraite des droits humains qui devraient se situer à une échelle générale ou englobante. On est sur une définition politique qui se construit sur le fait empirique de l'existence du lien. Et donc, de nouveau, là, c'est pour répondre à la question qui disait « mais c'est pas mon problème, à la question des migrants, s'il y a un problème de charité, pas un problème de justice », les théories qui rejoignent un peu les derniers mouvements de la théorie cosmopolitique en disant « non, le politique il doit se construire sur les liens empiriques qui existent à des échelles différentes ». Voilà, je vais m'arrêter ici donc en esquissant ces deux pistes et en essayant d'ouvrir à la discussion mes différentes questions. Est-ce que vous pensez que effectivement cette définition des frontières c'est essentiellement national, essentiellement contemporain, et est-ce que cette idée d'un dépassement du national par le bas ou par le local pourrait être une piste intéressante. Voilà, merci.
Merci.
Désolée, j'ai parlé très longtemps, je n'ai pas contrôlé le temps, désolée.
Non, une heure. Parfait. Alors, par quoi commencer? Il y a beaucoup de questions, peut-être. Je veux bien poser deux pour commencer, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres, et comme l'exposé est assez riche, ça mériterait plein d'autres remarques et observations. Alors, ma première question serait peut-être si on part de la fin,
ouais. Si
on part de la fin et de la question en fait de savoir si on est concerné effectivement par ceux qui frappent à la frontière et qui demandent à entrer. Donc vous avez mentionné en fait la question du cosmopolitisme d'un côté et ouais. La question du Caire. Je me demande s'il n'y a pas une troisième référence possible en fait, ouais. Qui serait assez largement finalement et assez massivement au fond la référence libertarienne. Dans un certain sens, la référence libertarienne est aussi extrêmement forte là-dessus.
Ouais,
et elle dit que par exemple, si effectivement je dispose à la fois des droits sur mon corps, des droits sur les produits de mon travail, et que l'État doit avoir un contrôle minimal sur cet ensemble de produits qui sont générés par mon activité, alors si la valorisation de mes ressources passe par le fait que j'ai absolument besoin de migrants pour travailler dans mon entreprise, l'État ne peut pas m'interdire,
ouais. Enfin,
sinon indirectement il porterait atteinte à ma propriété, ouais. Il porterait atteinte à la propriété de soi-même, et donc ce serait un argument pour faire sauter le problème de la frontière. Donc il me semble qu'il y a aussi un argument libertarien qui intéresse beaucoup, et c'est pas un hasard si c'est une des traditions les plus vivaces par ailleurs, fondée sur les droits naturels au fond, pour plaider en ce sens vers la disparition des frontières, vers la porosité complète des frontières, en disant finalement, plus on va vers des États qui sont de moins en moins interventionnistes, en fait, plus on garantit mieux, on garantit les droits, et en garantissant complètement les droits, en fait, on garantit les flux et l'existence des flux. Donc, les plus radicaux d'entre eux, je pense vraiment aux théoriciens de l'État ultra minimal, c'est presque d'ailleurs des théoriciens pour lesquels l'État a disparu.
Ouais.
Si on prend les plus radicaux, hein, je pense à des gens comme Rothbard, par exemple, Roy Childs, Randy Barnett, c'est des gens pour lesquels il n'y a même plus d'État, en fait. Il n'y a plus que des communautés locales organisées avec quelques services de police, de temps en temps entre les communautés, des espèces de négociations pour la justice, hein, parce qu'il y a des problèmes quand même de punition réciproque. Enfin, il y a quelques problèmes de négociation pour la question de tribunaux, de justice et de forces de police qui opèrent sur les territoires, mais pour le reste, l'État s'est littéralement effondré. D'ailleurs, ils pensent même que c'est le seul moyen d'éviter les guerres, c'est que la disparition de l'État, parce que l'État étant lié à la guerre, l'État disparaissant, il n'y a même plus de guerre. Donc là, vous voyez, le problème de la frontière est réglé, parce que c'est un espace plan dans lequel il n'y a que des flux et des droits individuels, le reste a complètement disparu. Donc je me demande s'il ne faut pas, c'est ma première question, s'il ne faut pas l'ajouter à la panoplie des théories du dépassement de la frontière. Alors ma deuxième question, alors, c'est tout à fait différent. C'est complètement autre chose, c'est cette idée sur laquelle la frontière finalement en tant que telle surdétermine les manières de construire les identités. Par la surdétermination de la manière de construire les identités, ça crée un peu un équivalent d'une théorie des groupes sociaux. On trouve ça aussi en psychologie sociale, en sociologie, l'idée selon laquelle finalement les identités ne sont pas d'abord des produits donnés qui ensuite trouveraient les moyens de se différencier en créant des frontières, mais c'est d'abord la création de la frontière qui, à l'intérieur de l'espace délimité, fabrique en fait ensuite des identités une fois que la frontière est posée. Alors, il y a des gens comme Toshiaki Kosakai, par exemple, ou en ethnologie Frédéric Barthes, qui ont énormément soutenu cette problématique-là, selon laquelle on décide d'abord de la frontière, une fois qu'on a décidé de la frontière, après, à l'intérieur, il y a un processus qui va intervenir, ou par des effets de communication, par des effets de conformité, par des effets de structure groupale liée à la fermeture de l'espace social, on va fabriquer l'identité qui correspond au principe signe de fermeture. Donc je me demande si la problématique de la frontière correspond presque pas un peu à une espèce de constructivisme un peu radical, finalement, selon lequel les identités se construisent après la construction des frontières. Mais alors, dans ce cadre-là, une des questions qu'on pourrait se poser, me semble-t-il, c'est quand même qu'on a des exemples très concrets de production de frontières qui n'ont pas abouti à des créations d'identité une fois que la frontière a été fabriquée, mais qui, au contraire, une fois la frontière produite, ont maintenu malgré tout, à l'intérieur des espaces qu'elle devait séparer, des poches complètement hétérogènes de gens qui ne se retrouvaient pas dans les nouvelles identités créées. Bon, l'exemple le plus bête, le plus simple, c'est quand même le traité de Versailles. Le traité de Versailles, c'est l'exemple canonique où on a, du côté des Tchécoslovaques, on a les Sudetendeutsche, qui sont un groupe de Tchèques qui ont absolument résisté, des groupes d'Allemands, qui ont absolument résisté à la tchéquisation, donc qui sont restés tels quels. Les Hongrois, qui étaient du côté de la frontière slovaque, sont entièrement restés une minorité hongroise, et aujourd'hui encore, ils résistent comme minorité hongroise. La minorité hongroise du côté de la Roumanie reste une minorité hongroise extrêmement dense. Les Allemands de Pologne, en fait, sont restés les Allemands de Pologne tels quels. Dès que les troupes du Reich arrivent, naturellement, ils se jettent dans les bras des troupes du Reich. On a les Souabes, évidemment, donc on a toute une série de cas dans lesquels on a pourtant fabriqué des frontières, on a pourtant fermé les frontières, et malgré tout, ces groupes sont restés des groupes totalement rattachés en fait aux identités antérieures, et donc ils ne sont pas dissous dans les nouveaux ensembles. Donc est-ce que c'est si vrai du coup que les frontières ont cet aspect constructif au point de superposer aux groupes existants la possibilité de se forger des identités, alors même que on pourrait soutenir la thèse selon laquelle finalement les identités ont du mal à se dissoudre là-dedans, elles sont restées très vivace, c'est une large partie d'ailleurs du traité de Versailles, c'est ce problème-là, c'est le problème après qu'on est obligé à la fin de la guerre, finalement après l'accord de Potsdam, de déplacer 11 millions de personnes dans toute l'Europe, on va débarrasser les Allemands de la Pologne, on va débarrasser les Allemands de la Hongrie, on va débarrasser les Allemands de la Serbie, enfin dans un vaste mouvement de population absolument immense, qui va déplacer aussi d'ailleurs les Ukrainiens qui étaient dans la région de Volhynie en Pologne, on va remodeler la Bosnie-Herzégovine, enfin c'est une espèce d'énormes bouleversements des frontières où là, on va essayer ensuite de créer l'homogénéité, mais une fois qu'on aura chassé absolument tout le monde. Donc, je me demande si la question n'est pas aussi complexe quand on réfléchit à ce niveau-là aussi.
Oui. Merci, c'est des belles pistes. Ouais, pour la piste libertarienne, j'y avais pas pensé, mais j'y avais pas pensé parce que... ce qui m'intéresse, c'est les échelles intermédiaires, justement. J'aimerais critiquer l'accent qu'on fait porter sur la frontière nationale pour mettre en valeur l'importance des échelles intermédiaires. Et j'ai l'impression que dans la piste libertarienne, on fait comme si ces échelles intermédiaires, au fond, elles étaient pas porteuses à leur tour d'enjeux qui reproduisent à d'autres échelles les enjeux de négociation de justice. J'aimerais bien comprendre ce qui m'intéresse, c'est comment se stabilisent ces différents jeux d'échelle, comment se définissent l'importance des différents systèmes qui ont prise sur justement la capacité des individus ensuite à pouvoir faire des choses ou pas. Mais je vais regarder le.
Ben, il me semble que ils répondent avec. Enfin, ils ont toujours la même thèse, au fond, c'est un peu une thèse monomaniaque, en certain sens, qu'ils répondent toujours à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'ils expliquent en gros que tous les obstacles internes qui pourraient jouer, même si on ouvrait la frontière, de toute façon, ils doivent disparaître aussi. On doit se marier absolument à n'importe qui, on doit s'intégrer dans n'importe quel groupe, on doit pouvoir habiter n'importe quel espace sans problème, du moment qu'on respecte le droit de propriété. Par exemple, bon, supposons qu'on ait privatisé, comme demande Walter Bloch, qu'on ait privatisé les rues.
Ouais.
C'est une thèse libertarienne, on privatise les rues, des espaces publics, on fait même payer des taxes pour passer dans la rue. Voilà. Donc, si on fait ça, après tout le monde doit pouvoir aller où il veut, du moment qu'il acquitte les droits de propriété, donc c'est pas un problème. Donc, j'ai l'impression que c'est une espèce de bulldozer absolument radical dans lequel on écrase absolument toutes les. Et là, du coup, finalement, les problèmes disparaissent, mais ils disparaissent que là, ça n'existe plus. Quoi. Il y a une telle simplification absolument radicale des conditions de l'appartenance, de l'intégration, du droit de se marier, d'avoir un permis, tout ça n'existe plus, au fond. C'est une espèce de vaste plan.
Non, mais du coup, ça va être super intéressant pour voir exactement si. Où je résiste et puis si je suis capable de donner des arguments pour expliquer pourquoi.
Alors, c'est pas d'un sens,
je pense que voilà.
Ouais, ça peut être intéressant de se confronter à eux au moins pour ça, pour savoir ce qu'est-ce qu'on peut répondre en fait à ça. Ouais. Parce que là, c'est vraiment le cas de l'ouverture absolument totale. Enfin, c'est l'espace plan le plus fluide qu'on puisse connaître.
Ouais.
Bon, alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Est-ce qu'on peut répondre, malgré tout, on maintient quand même une relative fermeture.
Parce que du coup, évidemment, c'est malin dans le sens où ça nous pose dans la situation de ceux qui veulent fermer. C'est jamais agréable.
Ah, ben bien sûr, mais ça fait une fermeture.
Non, mais je vais effectivement regarder. Et alors sur la question effectivement de voilà, bien sûr c'est absolument vrai, c'est-à-dire la théorie du constructivisme radical, elle marche pas. Il y a on a autant d'exemples de cas où l'existence de la frontière va faire cristalliser des identités que de cas où ça marche pas et où ça résiste. Alors ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que c'est vraiment une question là pour le coup de méthodologie. Comment est-ce qu'on teste ça? Comment est-ce qu'on peut arriver à imaginer des manières de poser les questions pour réussir à aller un petit peu plus loin que de dire bah il y a un petit peu de résistance des identités puis il y a un petit peu de constructivisme. Et je me demande quel est un peu c'est vraiment une question de méthodologie, parce que on voit des cas assez nets où ça marche et des cas assez nets où ça marche pas. On voit des cas où ça marche en surface mais il y a des résurgences, et s'il y a un changement alors 20 ans après ça. Mais je me demande si
c'est plus une question d'épistémologie que de méthodologie.
Oui.
Moi, je voulais justement intervenir là-dessus. Là-dessus aussi, je me demande si finalement, on se retrouve avec la question de la frontière un peu dans l'équivalent de ce qui a été le problème du nationalisme, études sur le nationalisme, à partir de des années 70. C'est-à-dire, en gros, tiraillé entre d'un côté le primordialisme qu'on pouvait trouver chez certains, chez Geertz par exemple, des identités primordiales, etc. Et d'un autre côté, un constructivisme qui là aussi pouvait être relativement radical et qu'on allait trouver chez Gellner par exemple, avec cette idée là aussi, un exemple canonique qui est celui de l'unification de l'Italie, la fameuse phrase de celui dont j'oublie toujours le nom à chaque fois, même quand j'en parle en cours, qui dit on vient de faire l'Italie, maintenant on va faire les Italiens. Qui est l'exemple quasiment, c'est le quod erat demonstrandum de Gellner en quelque sorte, dans son bouquin. Et il y a une espèce de tiraillement entre les deux, et ils ont passé, enfin beaucoup de gens ont passé leur temps à se dire mais bon, comment on fait, comment on fait finalement à ce niveau là et il y a un exemple assez intéressant au milieu des années 90, un débat entre Gellner et Anthony Smith, qui a été son étudiant. Et la question que pose Gellner, c'est est-ce que les nations ont un nombril? Littéralement, il pose la question comme ça, et il dit finalement on s'en fout un peu. C'est pas le plus intéressant. L'intéressant, c'est de comprendre le mode de construction comme ça. Et Smith lui répond mais malgré tout, quoi, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il y a des cas, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a des cas où on voit très bien que, bien sûr, il y a une construction qui se fait par la frontière, qui se fait par le nationalisme, etc. Mais dans ce cas-là, il y a des choses qu'on ne peut pas véritablement expliquer. Ouais. C'est pourquoi il y a des espèces comme ça de permanence, de continuité, qui peuvent résister alors même qu'on a eu affaire à un nationalisme contraire, qu'on a eu affaire à des créations de frontières, etc. Et donc lui se trouve en fait sur une... Il tente une espèce de voie médiane, en quelque sorte. À mon avis, il ne va pas jusqu'au bout. Mais il tente une espèce de voie médiane qui consiste à dire que, bien sûr, il y a de la construction, mais que généralement, cette construction se fait à partir de ce qu'il appelle un stock ethnique. Mmh. C'est-à-dire que pour lui, ça vient récupérer des légendes, ça vient récupérer des mythes, presque des mythèmes en quelque sorte, des mèmes un peu à la Barthes, cette idée qu'il y a des choses qu'on vient récupérer, qui elles existent quand même, elles ne sont pas fondamentalement inventées et créées. Donc bien sûr il y a une invention de la tradition, le fameux Osbom Ranger, etc. Mais d'un autre côté, cette invention de la tradition, elle ne se fait pas comme ça.
Pas à partir de rien.
Elle ne se fait pas à partir de rien, elle se fait quand même toujours à partir de quelque chose. Donc du coup, une sorte d'acceptation à la fois du constructivisme et de la performativité et de la formativité en tant que telle, parce que la frontière n'est pas en tant que telle performative, elle est plus formative, parce que chez Austin, il n'y a que les verbes qui, qui font les choses. Donc s'il faut former, c'est pas les verbes qui peuvent le faire, c'est plus les substantifs. Je pense que frontière est un substantif qui est très formatif en l'occurrence, très souvent. Et du coup, la question qui se pose à mon avis, c'est celle des conditions de félicité et d'infélicité. C'est-à-dire quelles sont les conditions par lesquelles ça marche ou ça ne marche pas. Ce qui permet d'évacuer la question du c'est primordial ou ça l'est pas.
Ouais, non, c'est une bonne manière de poser la question.
Alors, c'est une façon qui du coup est à la fois nominaliste, assez largement, malgré tout constructiviste, mais dans un sens historique, c'est-à-dire pas forcément dans un sens hyper normatif consistant à dire voilà, c'est forcément construit. C'était Merton qui généralement disait oui, bon d'accord, un avion c'est socialement construit. Et alors, une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'on va quoi? Finalement, ça n'amène pas très très loin. Ouais. L'hypothèse constructiviste, quand on la pousse juste à tout prix en disant oh là là, attention, c'est construit, ça peut s'avérer quand même relativement faiblard. C'est ce que Yana King démontrait assez bien dans Entre science et réalité, je crois, la construction sociale de quoi. Il faut quand même aller un tout petit peu plus loin que ça. Et je pense que la question de l'historicité et donc des conditions de félicité peut être un point.
Je voulais dire en fait la capacité du coup au nom d'uniformiser des entités, enfin à partir d'identités composites, c'est ça?
Non, c'est le. Il y a bien évidemment une construction historique de. Mais cette construction historique, elle se fait jamais. In abstracto complètement.
C'est
toujours fait à partir d'un ensemble de choses qui elles sont là. Et par contre, c'est comme s'il y avait une sorte de processus de rassemblement de ce qui est là pour en faire un récit, pour en faire une certaine forme de totalité.
C'est la question de la centralisation alors.
Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas que ça, parce que la centralisation dirait que c'est uniquement politique. Alors, je pense que c'est pas uniquement politique. Il y a un aspect intellectuel qui est idéologique, qui est très très fort là-dedans, dans la construction nationale. Les intellectuels, au sens large du terme, ont joué un rôle antérieur et très important par rapport à la construction des langues. Par exemple, tu parlais tout à l'heure du l'exemple le plus strict, c'est encore le slovaque. Le slovaque, c'est un dialecte et qui est fabriqué en tant que langue au 19e siècle pratiquement de manière totale. Le serbo-croate aussi, c'est exactement la même chose. Ils prennent un tout petit dialecte et ils en font une langue. Littéralement, la reconstruction de l'hébreu moderne. C'est exactement la même chose. Or, ça joue un rôle fondamental dans la création d'une identité. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose. Par contre, c'est dur à tenir. C'est dur à tenir parce que ça implique.
Précision. Ça implique une précision, puis je me demande si du coup on ne va pas retomber sur des facteurs justement qui en un sens sont des facteurs toujours singuliers. C'est-à-dire, on va dire, ah ben justement, là, il y a eu telle personnalité qui écrit la grammaire, tu vois. Et parce que est-ce qu'on retombe pas sur une vision de une lecture où ce qui fait prendre
c'est pas une vision héroïque là en l'occurrence.
Non, pas héroïque,
pour dire que c'est individuel non plus.
Non, pas
mais c'est pour dire que c'est forcément obligatoirement.
Tu vas insister sur la contingence du fait que y a un grammairien là et un historien là, là il y a un romancier.
Ouais, mais il y a quand même un moment où à mon avis on doit tomber sur du localisé et du
absolument.
Et de l'historique.
Mais je pense qu'on y est là.
Alors après comment on monte en généralité, comment on évite l'incommensurabilité complète et la singularité de chacune des expériences pour tenter d'en faire quelque chose qui va venir bien évidemment gommer quelques aspérités, quelques contingences et malgré tout permettre de d'expliquer un petit peu ce qui se
Mais
passe.
Peut-être que la réponse c'est qu'il n'y a pas de montée à généralité à faire, tu vois.
Ah oui, mais dans ce cas-là, à
ce niveau-là,
on renonce à plein de choses.
Ouais, mais il se peut que ce soit la bonne réponse là-dessus, tu vois. C'est ça qui sur la question des frontières, c'est une des choses qui me turlupine beaucoup parce que on peut avancer sur la question des frontières. Moi, je suis philosophe, mais je peux pas avancer sur cette question-là sans lire considérablement vraiment de travail empirique. Et la question que je me pose, c'est quel est le bon niveau où on peut situer un discours qui soit pas un discours de terrain. Mais qui disent pas n'importe quoi non plus. Et peut-être que le niveau de où il faut arrêter la montée de généralité, en fait, fait assez bas et que c'est comme ça et c'est bien.
Alors, il y a une solution assez élégante et assez intéressante, qui est celle qui avait été proposée par Marcel Détienne, qui consiste en fait à construire des comparables.
Ouais, alors effectivement, en procédant par un peu par cluster de cas, quoi, en faisant des cas,
Coup, il pose la question qu'il pose ne serait pas, par exemple, là en l'occurrence, qu'est-ce qu'une frontière, mais ça serait qu'est-ce que tracer une frontière.
Voilà, d'accord.
Et là, tracer une frontière, fondamentalement, c'est universel.
Ouais. Je peux construire des espèces de typologies.
Et il a fait. Alors, lui, il refuse la typologie à partir de ça.
Ah, j'ai prononcé un mot interdit.
Non, chez Détienne, en tout cas. C'est-à-dire que lui, il refuse. Et lui, il va additionner des cas en disant regardez comme c'est compliqué.
Ouais.
Finalement, on arrive à ça. Et il se refuse fondamentalement à articuler ça.
Ouais,
et à trouver une sorte d'anthropologie. Alors, il l'a fait à plusieurs degrés. Il a un bouquin qui est extraordinaire, qui est un livre des années 70, qui s'appelle Tracé de fondation. Qui est un bouquin collectif.
Tracé comme Tracé
et Tracé, oui, Tracé et S en l'occurrence. Tracé de fondation, où il se pose la question, mais fonder une ville, c'est quoi?
D'accord, oui.
Comment on fonde une ville? Et comment on fonde une ville en Afrique et en Inde et comment on fonde Rome et comment on fonde, etc. Et il a fait plusieurs bouquins comme ça, dont un qui est aussi intéressant, alors qui n'est plus tout à fait sur la question de la frontière, qui s'appelle Prendre la parole, qui a été édité au genre humain. Et qui est la même chose, qui tente de penser ensemble le fait d'intervenir dans une palabre, le fait de prendre la parole dans une assemblée. Comment est-ce qu'on construit des endroits où l'on prend la parole? Mais après, il ne donne pas de nom à ça. Il ne dit pas c'est une assemblée.
Il décrit, il montre.
Voilà.
Donne à voir.
L'idée, c'est ça. Donner à voir et du coup, peut-être essayer de faire penser un certain nombre de problèmes. Je pense que ça peut être une. Comment dire peut-être un des pôles à partir desquels il est possible de penser sur.
Non, mais ça permet sans doute au moins d'être assez humble ou en tout cas assez conscient du moment où on fait le pas supplémentaire et où on généralise et de vérifier si on le fait à bon escient ou si on a les bons arguments pour le faire ou pas.
C'est assez. Pose beaucoup quand même la question de l'État au sens moderne du terme, sens moderne, territorial du terme. Et c'est vrai que le rapport à ce qu'on appelle généralement l'espace est extraordinairement différent.
Ouais.
Parce que parfois l'espace est très important et parfois l'espace est.
Oui, en fait, ce qui m'interrogeait là-dedans, c'est quand on commence à faire le travail de lecture de la littérature sur les frontières en ce moment, on tombe toujours sur une espèce d'histoire qui est comme ça récupérée de texte en texte, et c'est-à-dire tout change avec l'État westphalien. Et ça me laisse un peu perplexe parce que je comprends mal sur le.
Et tout change pas partout, surtout.
Voilà, j'ai du mal à voir les
trucs. Tout ne change pas partout.
Comme si la frontière moderne surgissait là tout armée et j'ai. Ouais.
Ok, bon, je pense qu'il y a, enfin, j'avais cette question. J'avais des références qui me venaient en tête, je sais pas si tu les. Parce que tu parles beaucoup de la métaphore hydraulique.
Ouais.
Et je me disais si tu l'avais prise chez Nancy Green ou.
Non, je l'ai pas prise chez Nancy Green, mais je vais aller regarder chez Nancy Green.
Parce que Nancy Green, dans Penser les migrations.
D'accord, je vais regarder.
Dans Penser les migrations, pas les migrations.
Oui.
A tout un chapitre justement sur la métaphore liquide dans le domaine des migrations.
Ok.
Donc le bouquin doit dater de 2002 ou quelque chose comme ça. Donc je pensais à Nancy Green et je pensais à sa scène dans son bouquin Territory Authority Rights.
Ouais.
Avec la question de l'assemblage.
Ouais.
Ça aussi c'est une.
Bah oui, en fait c'est un peu des questions comme ça qui m'intéressent et c'est un peu pour ça que la solution libertarienne me fait résister. C'est parce que je pense que les assemblages sont importants pour employer ce mot-là. Mais effectivement,
D'autant qu'en fait, ce qu'on pourrait dire sur le problème de l'origine de la frontière, en laissant de côté complètement la question de l'État westphalien, parce que c'est peut-être même une fausse question, mais entière, en fait, puisque on pourrait montrer finalement que le concept de frontière, il est tellement répandu, au fond, et non seulement répandu au plan du rapport interétatique ou du rapport territorial fermé entre les États, mais extrêmement répandu socialement de manière interne à toutes les formes de sociétés différenciées, articulées. Ouais. Toute la notion de frontière sociale, au fond, elle est extrêmement importante. Et, on a, dès l'Antiquité ou dans n'importe quelle cité de l'Antiquité, on classe, on catégorise. Ouais. C'est même les Grecs qui inventent le mot catégoristai, j'accuse, je montre l'autre comme étant quelqu'un de différent. Donc, déjà, la notion de frontière sociale, en fait, elle est presque le support de la frontière nationale et de la frontière physique entre les États, parce que
on différencie
les groupes sociaux, il y a des problèmes de passage d'un groupe social à l'autre, on a des frontières plus ou moins étanches socialement selon lesquelles les groupes peuvent avoir des mobilités sociales relatives ou une absence à peu près totale de mobilité sociale, parce qu'on est renfermé dans sa propre frontière, ghettoisé, on ne peut plus bouger, donc y compris avec un aspect tout à fait spatial, interne d'ailleurs. Donc on a cette idée-là qui pourrait même remonter d'un cran supplémentaire, puisque il y a un certain nombre de psychologues cognitivistes, pour le coup, qui défendent l'idée selon laquelle le problème des catégorisations en général, c'est un problème de connaissance quasiment qui relève de l'économie cognitive, en fait. On a absolument besoin de faire des catégorisations, parce que sans quoi il n'y aurait aucun classement possible des objets de l'univers. En fait, je devais reclasser en permanence tous les objets que je perçois dans la journée, je perdrais un temps considérable pour m'orienter, ne serait-ce que pour traverser la rue, ce serait impossible. Donc l'idée de la catégorisation, au fond, c'est de tracer des frontières, en quelque sorte, et de fabriquer des classes, au fond. C'est un besoin d'économie cognitive absolument important. Alors de là après, à l'étendre, il y a un pas qu'on peut contester. Mais enfin, je veux dire, la thèse peut remonter jusque-là aussi.
Oui, disant,
finalement,
absolument.
Du coup, l'État westphalien, le problème de la frontière, ça disparaît complètement. Ouais. Enfin, c'est une origine sociale beaucoup plus large que l'État westphalien.
Ouais. Ce que tu dis, finalement, c'est exactement le problème qu'on rencontre dans la nouvelle de Borges sur Funès et Mauricio. C'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'il devient fou? C'est parce que tout est singulier.
C'est
parce qu'il est capable de se souvenir de tout avec l'intégralité des différences. Et donc il ne classe pas. Le problème, c'est aussi fondamentalement.
On retrouve sur des problèmes qui sont là aussi des problèmes. Alors là, des découpages des concepts, des découpages du monde, d'organiser.
Mais c'est vrai que les Grecs avaient une conception de ce qu'on peut appeler la frontière, bien évidemment, et de la différence, et de qui a le droit de, et comment est-ce qu'on traverse, comment est-ce qu'on traverse pas. Il suffit de lire les lois de Platon pour voir le soin avec lequel il dit qu'il faut que ça soit une île, c'est pas du tout un hasard, il faut que ça soit une.
Oui, ça arrive, c'est un certain nombre de problèmes.
Bien sûr, il y a un certain nombre de problèmes. Et pourquoi le cœur, pourquoi la cité ne doit pas être à l'extérieur, par ailleurs. Parce que bon, il faut garantir ça. Garantir la pureté, il faut garantir le fait de pas trop se mélanger avec les autres. Ouais. Enfin, tous ces éléments-là sont absolument. Ouais. Il y a dans les lois de Platon, il y a une mixophobie qui est quand même assez poussée également. Alors en t'écoutant, je pensais à une citation de Zimmel, parce que Zimmel est très très puissant sur ces choses-là. Finalement, je trouve assez peu utilisé.
Ouais, c'est vrai.
Quand il dit à un moment que la frontière, il y a une citation sur la frontière, il dit que la frontière, c'est pas un fait spatial qui a des conséquences sociologiques, mais c'est un fait social qui a des conséquences spatiales.
Aussi, très, très belle
et
formule.
Du coup, je pense que rien qu'en en voyant les choses comme ça, on pense plus du tout de la même, de la même manière. Bon, après, c'est qu'une formule.
Non, mais elle est bienvenue.
Mais ça permet quand même pas mal de choses. Et alors, en t'écoutant, je pensais à un truc, c'est beaucoup plus trivial. On est très loin de Zimmel, mais je pensais à au bouquin de science-fiction, la série de livres Game of Thrones.
Ouais.
Et il y a ce mur. Dans le livre, je trouve que c'est moins prégnant dans la série. Série télévisée, mais dans le livre, ce mur est un monde, littéralement en tant que tel, gardé par des gens qui sont tout à la fois font partie et à la fois ne font plus partie.
Ils sont à l'extérieur déjà.
Et puisqu'ils sont censés être complètement détachés, ne peuvent plus avoir d'enfants, enfin font le serment de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de relations sexuelles, etc. Donc il y a tout un monde de la frontière. Ouais. Qui est littéralement créé, et ça me frappe beaucoup cette série de livres, la distinction qui est faite entre à la fois la frontière maritime qui fait que les Dothraki sont censés ne pas pouvoir envahir le continent. Et d'un autre côté, cette espèce de mur gigantesque qui est à la fois la qui protège complètement, qui est censé protéger,
qui est censé, ouais,
en tout cas de tout ce qui est, de tout ce qui est au nord et qui est inconnu et qu'on ne veut pas véritablement savoir, mais quand même faudrait savoir, etc. Ouais. Et je trouve que c'est assez étonnant comme mur parce que là, c'est un mur qui du coup ne vient pas maîtriser les flux.
Ouais, alors
il n'y a absolument pas de flux dans cette histoire.
Ouais, qui tient à distance, mais en fait, la littérature, de ce point de vue-là, c'est un super point d'entrée pour étudier les métaphores de la frontière. Moi, j'avais commencé en faisant ça avec des livres tout le temps, avec le désert des Tartares. On est exactement dans la même chose. C'est-à-dire, on est dans un mur qui incarne, en fait, il n'y a rien de l'autre côté, il y a trois personnes. Et donc, en fait, c'est fantastique pour explorer.
Kutze a repris ça aussi.
Ah oui,
ouais, d'accord. Il a repris ça dans un livre qui s'appelle En attendant les barbares.
Ah oui, bien sûr, il est magnifique.
C'est une espèce de reprise de Buzzati, qui est très très proche.
Absolument. Avec le même genre de.
Avec
l'idée qu'on est à la périphérie de l'Empire, que c'est qu'être à la périphérie.
Cela dit, c'est intéressant parce que là, on est aussi toujours dans l'hypothèse sur laquelle la frontière, c'est la protection contre l'intérieur, mais de l'extérieur. Mais je crois que Scott doit dire ça à un moment donné dans Les Arts de la domination et la résistance. Il montre en fait, je ne sais pas si c'est là, mais que la muraille de Chine, c'est pas du tout une protection contre l'extérieur, c'est pour éviter que les Chinois s'en aillent.
Ouais,
c'est un containment en fait pour éviter que le paysan chinois trop taxé. Ah oui, c'est dans Zomia.
Je crois que c'est dans Zomia.
C'est dans Zomia.
Je crois qu'il y a plusieurs hypothèses.
C'est intéressant. C'est intéressant aussi quand même d'envisager celle-là, de savoir que comme il a une thèse anarchiste selon laquelle en réalité il y a les Han cuits et les Han crus. Ouais. Donc les Han cuits sont les civilisés qui risquent de se transformer en Han crus quand ils veulent plus payer d'impôts et qu'ils s'en vont. Et donc on fait la muraille de Chine aussi pour les contenir parce qu'on veut pas qu'ils s'en aillent. Donc la frontière, il y a aussi l'idée de protection contre la fuite.
Oui, alors ça aussi,
c'est pas inintéressant comme thèse en fait.
Il y a toujours deux côtés, hein. C'est très immédiat là aussi. Hein. Il y a deux côtés d'une frontière.
Oui, deux côtés, mais c'est intéressant aussi que la porosité ne se fasse pas. On pense toujours l'interdiction d'entrée, mais l'interdiction de sortie. Ben, après tout, je veux dire, l'Empire soviétique.
C'est ça, le rideau de fer, c'est ça.
Le rideau de fer, il a fonctionné comme ça.
C'était vraiment l'interdiction. Et le mur de Berlin, c'est ça.
Et le mur de Berlin, c'était entièrement ça. C'était l'impossibilité absolue de sortir. Ouais. Donc on a un contrôle interne de la population.
Absolument.
Sur le domaine artistique, si ça peut vous intéresser. Ouais. Alors, j'ai plus la référence, mais je peux la faire passer à Stéphane Dufoy. J'ai une amie qui avait fait un super. Je sais pas comment appeler ça, si c'est un film ou un court-métrage, sur une frontière. Alors, je me rappelle plus bien si c'est en Serbie ou.
D'accord.
En tout cas, voilà, c'est dans cette région. C'était vraiment très intéressant. Du coup, elle interviewait des gens en faisant parler sur cette frontière. C'est que le film se finit où elle va justement en forêt tracée. Donc c'est entre le documentaire et voilà, le côté un peu fictif. Donc je vais lui envoyer un petit message.
Ah bon,
il est vraiment très bien en plus. Donc on voit vraiment des personnages qui ont changé, je crois, de frontières tout le temps. Moi, j'ai aucune connaissance là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je me rappelle plus bien. Mais je vous ferai parvenir.
Volontiers.
C'est un très bon. Ouais. Je pense en plus on peut le voir sur YouTube facilement.
Ouais, je veux bien la référence alors. Ouais.
Ça sera Stéphane Dufoy.
Merci.
Il y a eu un livre sur Vilnius aussi, comme ça. Et sur la manière dont. C'est Vilnius, Vilno, Vilna, quelque chose comme ça dans le titre.
Dantzig et Dangst.
Ouais, qui montre justement comment c'est fondamentalement retravaillé à chaque fois parmi.
Le pire étant la Bucovine, je crois. La Bucovine.
Il y a des endroits terribles.
Il y a des endroits.
Qui a changé six fois, je crois, cinq ou six fois en fait, de nationalité où ils ont été autrichiens, russes. Ouais. Ils ont changé 25 fois et. Là encore, avec des problèmes d'identité pour les habitants. Qu'est-ce qu'on est exactement
Justement, ce qui était plutôt marrant dans ce film, enfin, de ce que je me rappelle, c'est que les gens avaient l'air plutôt alors, à hésiter entre soi, ils n'ont pas le droit d'en parler, ou voilà, mais ils avaient l'air finalement un peu de s'en foutre, de dire bon, finalement.
Oui,
c'est
tellement que
au bout d'un temps après.
C'était ça qui était assez marrant, de poser des questions sur ça, mais d'y accorder très peu d'importance, je crois. Donc, je vais essayer de.
Je pense qu'au bout d'un temps, ils doivent se dire, en effet, ça ne veut plus rien dire grand-chose. Mais c'est un peu ce que concluent les écrivains, d'ailleurs, qui parlent de la Bucovine. Il y en a beaucoup, mais je crois qu'il y a Appelfeld et Gregor von Retzori. C'est les deux qui disent, au fond, au bout d'un temps, on ne se pose plus la question, effectivement.
Je pense que tu connais le pont sur l'Adrina.
Non.
Le pont sur Ivo Andrić.
Non.
C'est Ivo Andrić qui a été prix Nobel de littérature.
Je connais pas.
Qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le pont sur l'Adrina. Et qui est un livre sur, si je me souviens bien, sur le pont qui marque la séparation entre, je ne sais plus si c'est l'Albanie, la Serbie, c'est un truc comme ça, et c'est un pont qui marque la frontière.
Alors, ouais, totalement bah, immeubles, regardé, ouais.
C'est total, c'est le pont, la porte, enfin, c'est vraiment c'est la métaphore zimélienne par excellence. Donc on a ça chez Johann Drich, le pont sur la Drina, ouais. Et sinon il y a Ismaël Kadaré,
ouais.
Le pont aux trois arches.
Ouais, ouais.
Beaucoup plus petit, mais ce qui est drôle, c'est que c'est pas la même histoire, parce que je crois que c'est pas au même endroit. Mais sinon, c'est fondamentalement le même. Sur la frontière américano-mexicaine, je pense que tu connais le bouquin de Laurent Farré.
D'accord.
Les meilleurs géographes sociaux quoi, sur ces questions.
Sur ces questions-là, mais il y a des bibliothèques entières sur cette frontière-là.
Oui, moi, c'est celui que je connais, le livre que je connais.
Oui, effectivement.
Là-dessus.
Ouais.
Après, je connais. Ce que tu disais sur inclusion-exclusion et cette idée de cosmopolitisme. C'est vrai que c'est une des grandes idées du cosmopolitisme actuel, que finalement le cosmopolitisme est local. Peut l'être, et qui n'est plus forcément mondial, quoi, quelque sorte. Et je trouve que ça repose à nouveau frais la question fondamentale de l'hospitalité.
Oui. Oui, effectivement.
Qui est à la fois une question qui se trouve, philosophiquement, je n'ai pas le choix par rapport à vous, mais, qui, à mon avis, a été beaucoup posée, quand même, mais a finalement été, je trouve, assez peu reposée récemment comme question. Parce que, bon, bien évidemment, on a l'hospitalité au sens presque du droit cosmopolitique de Kant, quoi. On voit bien. Mais récemment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, je trouve, beaucoup posé. Moi, j'avais trouvé un livre qui est très très beau, c'est un livre qui parle dans tous les sens, un livre de René Scherrer qui s'appelle Zeus Hospitalier, qui est sur cette logique de l'hospitalité. Et sinon, il y a une sociologue qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est Anne Gottman, aussi sur l'hospitalité. Alors, c'est presque au sens urbain du terme, là, en l'occurrence.
D'accord. Chez
Anne Gottman, parce que c'est ça aussi, c'est reconnaître l'autre comme ayant la possibilité d'entrer, quoi, d'une certaine façon. Alors je trouve que finalement tu termines en évacuant la question de la frontière.
Ouais, alors peut-être que c'est du je m'impatiente, c'est-à-dire, mais en fait ce que j'aimerais, c'est pas l'évacuer, mais c'est dire qu'elle se repose en éventail à différents niveaux. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à penser, plutôt que de penser qu'il y a une échelle où se résout la question.
Ouais, mais le problème, c'est que du coup, ça devient fractal, c'est-à-dire qu'il y a frontières partout.
Ouais, mais simplement, il y a des frontières qui sont plus ou moins pertinentes.
C'est pas sûr, regarde le problème des Roms, c'est un cas très rigolo, la frontière est partout, là, pour le coup.
Y compris informatique.
J'ai une frontière absolument partout, le moindre déplacement est frontaliérisé. Vous arrivez dans une municipalité, la municipalité ferme, il y a les pompiers, les gendarmes, c'est rare, vous devez repartir, vous pouvez même vous installer là. Donc là, c'est un cas particulier où la frontière nationale est poreuse, parce qu'ils ont le droit, de se déplacer, mais à l'intérieur de la frontière, les sous-frontières, si on peut dire, sont extrêmement rigides. Et extrêmement inhospitalière.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'un usage...
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça comme une norme.
Un usage trop, je sais pas si on peut dire métaphorique, mais en tout cas généralisé de frontières, finalement,
il est plus opérationnel
parce qu'on arrive à un truc comme la frontière du corps, et bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est fini, quoi, on peut plus penser, quoi, du coup, on peut plus penser les frontières ou qu'est-ce que c'est,
non, en fait,
ça devient une catégorie,
raison,
on peut plus faire grand-chose.
Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de dire, moi, si je reprends mon exemple de migration d'Amérique centrale de tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est de dire, mais si vraiment on prend au sérieux la question de justice qui se joue ici, c'est naïf de croire que c'est une question de visa à l'entrée aux États-Unis. Ce qu'on a, c'est qu'en fait, on a un système hyper complexe, on n'a pas simplement une coupure, on en a 15 et on ne peut pas les inventer de l'extérieur, il faut qu'on aille les regarder, et c'est seulement en remontant que vous pouvez régler le problème de justice s'il vous intéresse vraiment.
Ce qui est intéressant,
c'est un peu dans ce sens-là.
C'est qu'à la fois, on ne peut pas les ouvrir, mais on ne peut pas les fermer.
Oui. D'où la solution pragmatique, ni chair ni poisson. Il faut qu'on en prenne un peu, mais pas tous.
qui rappelle un peu le petit texte de Bruno Latour qui s'appelle « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ».
C'est ça. Quand je dis le dernier titre,
il... Où il utilise Gaston Lagaffe. Il s'appuie sur Gaston Lagaffe. Pour montrer que c'est stupide de penser qu'une porte doit être ouverte ou fermée. Mmh. Donc, intéressant. C'est bon, c'est Latour.
Bon, par ailleurs, il y a aussi un autre argument, à mon avis, qui est quand même assez discuté sur les théories de la justice spatiale.
Ouais.
C'est aussi le problème de l'arbitraire de la naissance.
Bien sûr.
C'est aussi
bien
un argument clé aussi de dire massif, pourquoi, dans le problème de nationalité, si je nais de parents étrangers sur le sol national, je dois faire une demande spéciale,
absolument.
Alors qu'un Français ne le fait pas. Donc, quelle est la différence qui passe entre nous
d'accès
de telle sorte que je dois. Donc, il y a un problème d'arbitraire de
la
naissance qui fait qu'on n'est pas du tout sur la même ligne, en fait. Ouais. On n'a pas du tout la même opportunité et le même traitement, alors que c'est séparé par quelque chose qui n'a rigoureusement aucune justification, en fait.
Ouais.
Aucune justification rationnelle possible, pour le coup. Là, c'est vraiment un aspect tout à fait factuel.
Ouais.
Donc, là aussi, c'est un argument qui entre beaucoup en jeu dans les questions d'ouverture, de frontières.
Oui, c'est une des sources. C'est une des forces de l'ouverture.
Oui, bien sûr.
Avec un droit du sol immédiat.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas français.
Ouais.
Ça joue.
Ouais.
Le cas des naissances en avion, c'est intéressant.
Mais il y a une jurisprudence complètement étonnante sur la jurisprudence en avion.
J'avais une question peut-être pour rebondir jusqu'à ce que vous venez de dire. Est-ce que dans votre approche, la question des motifs de migration peut faire varier les attentes normatives des migrants ou du problème comme il se pose pour celui qui aurait un problème avec le migrant qui arrive?
Oui.
Enfin, est-ce que du coup, pas une typologie, mais du coup, est-ce qu'il y a une distinction de cas du point de vue des grands. Des intentions, des motifs que les migrants auraient en commun, du point de vue des collectifs, en fait, les migrants. Est-ce que vous distinguez ça? Est-ce que ça joue sur la question morale?
Moi je le fais jouer, je le fais pas jouer, enfin, je pense que c'est difficile de le faire jouer au niveau juridique, tout simplement parce qu'à partir. En fait, c'est ce qu'on fait en grande partie en demandant, par exemple, la théorie du droit d'asile politique, en réalité, elle repose sur tout ça. Et en fait, quand on regarde la manière dont, enfin, les effets qu'elle crée, ce qu'elle crée, c'est des espèces d'injonctions à prouver qu'on a vraiment été en danger de mort, en notant qu'on a eu des sévices physiques, on a des sévices psychologiques, etc. Et que comme tout ça, on peut mentir, ben ça crée une espèce d'escalade pour prouver qu'on était bien en danger de mort parce qu'on s'est fait vraiment trancher la gorge, voilà. Donc je trouve qu'au niveau de l'application juridique, la question des motifs, elle est complètement c'est une pente glissante, parce que c'est très... En revanche, là où je trouve que c'est fascinant, c'est que je trouve que c'est extrêmement intéressant de mettre en avant la multiplicité des motifs au niveau de la recherche, parce que quand on commence à aborder, ce qui était mon cas aussi, la question de la justice migratoire, on arrive parce qu'on pense aux pauvres migrants qui, etc. Et donc on oublie complètement que la migration, ça a des attendus, des motifs complètement variés. Et en réalité, là où je fais jouer cet aspect-là de la diversité des motifs, c'est en parlant un petit peu de la question de dans le cas de la migration, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. On sait finalement assez peu de choses. Ben on connaît des chiffres de migration qui sont calculés par différentes entités à différentes... Mais en réalité, on sait peu de choses sur les motivations individuelles des migrants si on n'écrit pas leur histoire avec un travail de terrain réel derrière. Et donc du coup, la question des motifs, elle m'intéresse pour casser un petit peu l'image qu'on peut avoir de le problème d'immigration, c'est un problème de pauvreté dans tel ou tel cas. C'est le cas parfois ça n'est pas du tout. Et donc, à mon avis, là, c'est très important de déployer tout l'éventail.
Plus comme ressource critique.
Ouais, comme ressource critique. Après, au niveau de l'application en pratique, je trouve que c'est séduisant, mais c'est dangereux. C'est-à-dire, vous imaginez... Après, le problème des catégories comme ça, c'est qu'il faut les prouver. Prouvez-moi que votre motivation pour venir ici, c'est que vous êtes amoureux ou vous voulez vous marier. Voilà, on retombe sur le même cas. Mais...
Quelle est la suite?
Bah, la suite, du coup, c'est que je vais aller lire ce que vous m'avez recommandé. Non, en fait, j'ai commencé à faire un petit peu ce que tu suggérais tout à l'heure avec l'idée de construire des comparables. Alors, même si j'avais pas un aussi joli manière de le décrire, de le penser, mais de faire des cas, en fait, des études de cas. Donc ça, j'aimerais bien voir où ça me mène, si j'arrive effectivement ou pas à construire des choses qui sont davantage que de la description.
Sur la question des frontières aussi, un beau livre historique d'un historien américain, que c'est Douglas, qui s'intitule « Les expulsés ». Qui raconte toute l'histoire des expulsions de l'après-guerre à partir des accords de Potsdam, en fait, de tous les transferts monstrueux de réfugiés qui se sont faits dans toute l'Europe, et qui pose, en fait, les deux, trois premiers chapitres posent très clairement la question du traité de Versailles, des problèmes insolubles posés dans le traité de Versailles, en fait. Ouais. Bah, ça vaut vraiment la peine, ça, c'est une très belle mise en perspective.
Ouais. Je vais regarder. Mais voilà, c'est ça.